c'est la mort aux trousses, le podcast qui...
Bonsoir et bienvenue à la mort aux trousses, saison 2, jour 43 du confinement, on est de retour après des petites vacances au bord de la plage...
Ou
Honduras. Ouais, à la plage ou Honduras. Bon. Bon, bah, ça va, Marion ?
Non, pas trop. C'est pas ouf.
Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'es devenue ?
Ça va mieux. J'ai fait deux nerfs au breakdown depuis la dernière fois.
Oui.
Voilà, on va bientôt enclencher le troisième, je pense.
Ah, et... oui, t'as failli péter la douche tout à l'heure.
Il n'y avait pas d'eau chaude, ça m'a saoulé de ouf, mais ça va mieux parce que j'ai réussi à avoir de l'eau chaude, et sinon je pense que j'aurais je sais pas faire
j'aurais pleuré
je pense
sous l'eau froide
c'était ouais. Extrêmement désagréable, mais donc voilà, donc je suis propre et en plus réchauffée, donc tout va bien. Et voilà, c'était pas trop cette semaine de vacances, enfin de vacances de podcast, parce qu'en fait on a quand même bossé.
Oui,
et en fait peut-être que c'est ça qu'il nous fallait, juste une semaine où que ça a vraiment à penser vraiment.
Ouais.
Et en fait, on a quand même bien avancé, donc c'est cool.
Je crois qu'il faut que tu te rapproches un peu du micro.
Ouais, je suis trop loin.
Ouais. Ça fait des toutes petites ondes.
Ah merde.
Donc, voilà. C'est là.
Bon, bref. Voilà. Et donc, du coup, ça va.
Ok.
Ouais. Un petit peu beau. Donc, ça s'arrête, mais. On vient d'apprendre qu'on ne reprendrait pas le travail avant la rentrée, donc ça va bof.
Enfin, qu'on n'irait pas au travail avant.
On n'irait pas au rentrée, travail, ouais.
On s'est jamais arrêté. Ouais. Et moi, et oui. Ben moi ça va aussi. Pareil, hein, petit nervous breakdown. Hier j'ai mis l'huile d'olive au frigo. Voilà.
Ouais, bon, ça va
et...
Oui, non, mais surtout qu'en plus tu m'as accusée, tu m'as dit non. Ah, c'est toi.
Oui. Non. Et après, pendant que j'étais en train de t'accuser, je me suis rendu compte que c'était moi.
Ouais, voilà.
Et du coup, je l'ai dit de suite quand même. J'ai dit non, pardon, c'est moi. C'est moi, c'est totalement moi. Voilà, donc il s'est passé ça, et on est prête à reprendre
du service,
exactement. Et du coup, ben, ce qu'on a décidé de faire, c'est de refaire un tour d'horizon de nos amis confinés, un peu à une saison 2, que sont-ils devenus ?
Le retour.
Le retour, voilà. La contre-attaque. Et donc, du coup, ben, on recommence avec la même personne avec qui on avait commencé. Comme ça, la boucle, elle est bouclée. Et on appelle Agathe à Paris. Et on l'appelle de suite.
Allô ?
Allô ?
Hello !
Salut, ça va ?
Ça va et vous ?
Super. Ça va. Toujours en vie ?
Ouais, toujours en vie.
Béniche aussi,
il est en vie. Il a des sautes d'humeur, mais ça va.
Lui aussi, il est comme Marion. Ok,
ouais.
Et qu'es-tu devenu depuis le confinement? Enfin, non, pas depuis le confinement, on y est encore dedans, mais depuis la dernière fois qu'on s'est officiellement parlé.
Officiellement, oui. J'avoue que pas grand chose, hein. On n'a pas bougé, on est resté à l'intérieur.
C'est bien.
Et puis c'est tout, hein.
T'as pas commencé des petites séries, des petites télé-réalités qui sont sur Netflix?
Alors si, j'ai vu The Circle France et The Circle US.
Ok.
Laissez-moi vous dire que c'est fameux. C'est incroyable. J'ai lancé le The Circle France en me disant « Bon, j'ai rien à regarder, c'est sur Netflix. » Je me disais « Je vais voir un épisode et ça va me saouler.
Ouais. »
Je n'ai pas lâché le truc et je l'ai fini pratiquement d'une traite.
Putain.
C'est très, très addictif.
C'est vrai.
Parce qu'il y a des cliffhangers à chaque fin d'épisode, faut dire.
Ouais. Ça fait genre, on a l'impression que tu dis que genre à la fin de chaque épisode, tu te demandes s'il n'y a pas quelqu'un qui va mourir, mais...
Bah, c'est
vrai
que ça.
Ouais, alors moi j'ai trouvé que le montage des épisodes était quand même un peu chelou, parce que justement c'est cliffhanger. Alors ça marche, hein, c'est cliffhanger, mais t'as l'impression que il y a pas de structure, tu vois, genre ça s'arrête à un moment complètement genre what the fuck, et après t'es là mais je veux savoir la suite. Non. Mais ça marche bien, mais
justement ça sert à ça.
Ouais, mais c'est pas comme des épisodes de Top Chef où genre t'as le
la personne sur la sellette.
Ouais, t'as les défis, et ensuite à la fin t'as quelqu'un qui part. Là c'est genre t'as quelqu'un qui part au début de l'épisode et après ça.
Bah oui, mais parce que ça se consomme pas du tout de la même façon une série une télé-réalité sur Netflix où t'as tous les épisodes d'un coup.
Ouais, c'est vrai.
Et une série Top Chef qui
toutes les semaines
ouais. Tu dois attendre et à chaque fin d'épisode c'est un rituel, il y a quelqu'un qui part. Ouais. Alors que là Netflix, bah, ils ont tout intérêt à ce qu'on regarde tout d'une traite pour qu'on consomme d'autres séries après sur leur plateforme. Et du coup, que ça se termine abruptement à la fin d'un épisode, et ben ça te donne envie de continuer du coup. Et puis après, le gars part et tu dis oh, quel va être le drama quand Micheline va sortir. Et voilà.
Et donc du coup, alors par rapport à la version US...
Alors attends, c'est incroyable parce que la version française, c'est Twitter. C'est-à-dire que c'est un concours de popularité à celui qui sera le plus sympa, le plus drôle. Ok, bon, très bien, c'est gentil. Mmh. La version US, c'est Tinder.
Ah ouais,
les gars, ils sont que là pour se chauffer, ils se draguent à tout va, et ça va très très vite. Et c'est très drôle. Mais ils sont super gentils, les Américains.
Ah ben ouais, ouais, toujours.
C'est des bisounours. Et en fait, eux, ils s'envoient des sextos. Mais c'est en mode self-care, en fait. C'est pour se sentir bien dans sa peau. Ça veut pas dire grand-chose. Tu vois, ou pas?
Genre
trop marrant. Ma meuf, elle dit, oh, voilà, j'ai flirté, je me sens bien. Allez, je vais faire à manger. Voilà, c'est très, 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 très bizarre.
Ouais, c'est pas pour la manipulation comme font les autres, genre, comme
pas forcément.
Dans la version française.
C'est genre, au moins, après, ils se sentent bien, quoi. Et puis, ils ont l'impression d'avoir, voilà, c'est comme si tu... Je sais pas, comme si tu passais un coup de fil à un proche, quoi. Ça te fait du bien, et puis on passe à autre chose. Mais sociologiquement, c'est intéressant.
Oui, fais genre que tu regardes ça pour des raisons sociologiques. Non, moi, c'est vraiment pour la recherche que je fais ça. Hein.
Évidemment. Non, mais ça a été absolument addictif. Et voilà.
Franchement, moi, je regarde aussi, du coup. Bon, je regarde pas, j'ai pas tout regardé d'une traite, et j'en suis pas là. J'ai pas encore fini la saison, enfin la version française.
Je sais pas comment tu fais.
Mais en fait, je regarde quand je suis en train de faire mon puzzle.
Oui.
Et voilà, mais non, mais c'est cool. Ou quand je cuisine aussi, ça va, j'aime bien.
Nous, on a créé un rituel avec Camilla. C'est qu'on s'écrit par texto en regardant les épisodes. Donc on se dit go, je suis à 0 minute 4 secondes, on lance l'épisode en même temps et ensuite on va réagir. Ça va être que des oh oh, haha, oh non, quel blaireau, ah mais t'as vu ce qu'il a dit, ah trop marrant, ouais voilà. Et on a l'impression qu'on regarde ensemble. C'était assez drôle.
Génial. Et ben je comprends,
mais j'ai pas regardé que ça, hein. Là, en ce moment, je suis en train de regarder une série sur Netflix, une série policière norvégienne.
Oh, The Killing et... Non, c'est quoi?
Borderliner.
Ah non, je peux pas.
Ça va plaire à Marion, ça.
Bah, en fait, moi, je trouve pas ça ouf.
Non, elle avait pas l'air ouf. J'ai vu la bande-annonce, mais ça a pas l'air ouf.
Je suis trop avancée dans la série pour m'arrêter. J'ai besoin de savoir ce qui va se passer.
Ouais. Voilà. Je te conseillerais d'autres séries scandinaves.
Ah yes, trop cool. Ok. Parce que c'est ça, je voulais un truc un peu dark, un peu froid, comme ils savent faire les scandinaves.
Ouais.
Là, c'est un peu genre... on dirait une série policière que tu pourrais trouver sur TF1, quoi.
Ouais. Est-ce que t'as vu Occupied?
Non.
Ah mais ça c'est fantastique par contre. Bon non, je t'en parlerai plus tard, mais franchement elle est trop
bonne. Okay.
Moi je l'avais vu sur Arte et j'ai vu qu'il l'avait mis sur Netflix là.
Ah oh, trop bien.
Ça,
ok.
C'est très très bien ça.
Et moi ma sœur m'a parlé d'autre chose. C'est une série allemande qui Unorthodox.
Ah. Qui est sur Netflix. Ah oui, ben ça on a trop envie de voir.
Ça il faut voir ça.
Elle est allemande cette série. Je pensais que c'était américain.
Oh. Okay. Elle m'a dit que c'était en allemand, alors je pense que c'est
pas, ah non, alors c'est pas en allemand, mais par contre c'est dans la communauté juive orthodoxe, je crois, si j'ai bien compris.
Oui, c'est en yiddish, ouais, voilà. Mais c'est une mini-série dramatique allemande. Okay. C'est quand même une série allemande.
Ah oui, je croyais que c'était américain, parce que il me semblait que ça se passait à New York.
Il y en a peut-être deux différentes.
Peut-être qu'ils ont pas aux Allemands.
Peut-être que, je sais pas.
je sais pas.
Non, non, c'est la série qui est sur Netflix, hein.
Ok, ah, c'est bon. Bon,
bah. Une série Netflix, mais allemande.
J'ai trop envie de la voir, celle-là.
Ouais, bah, ma sœur m'a dit que c'était vachement bien, donc...
Ouais, excellent. Il paraît.
Je la regarde aussi, ouais.
Bah, faudra qu'on regarde quand on aura fini de regarder... Community.
Ah ouais.
Non, Community. Ah,
mais moi, j'ai repris Community, et je trouve qu'il y a vachement de blagues qui ont très mal vieilli.
Ah oui,
et...
ouais.
Et j'ai vachement de mal.
Ben, en fait, c'est un peu genre toutes les blagues de Pierce.
De Pierce, ouais.
Bah, alors oui, mais t'as genre toutes les blagues sur, je sais pas. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais ouais, toutes les blagues de Pierce, mais à la limite, ça, on sait que c'est un vieux con.
Mais du coup, elle passe parce que c'est lui qui est un vieux con, mais quand ça passe moins, c'est quand c'est d'autres trucs, d'autres personnages qui ne sont pas des vieux cons.
Genre en fait, que Troy qui est triste parce qu'il pense que Batman est gay, t'es là-bas... Sois pas triste,
ah ouais, on est ça m'a saoulé un peu, ouais. Quand
tu vois, c'est moi, c'est toutes ces blagues-là où tu dis, bon, on a évolué, heureusement, et ça fait très années 2000, quoi.
Ouais, c'est vrai,
c'est vrai.
Alors qu'il y a d'autres trucs qui sont hilarants, et tu te dis, mais c'est merveilleux. Ouais. Et à côté, tu te dis, putain, ça a quand même vieilli. Hein.
Mais ouais, c'est vrai qu'il y a ces deux...
Ce contraste en fait, parce qu'ils font aussi plein de blagues, enfin non mais aussi puis très avancé, enfin très dans l'air du temps, tu vois, je sais pas, inclusif, multiculturel et tout, et quand même, eh ben, il y a des trucs qui restent, tu vois.
Je pense que c'est le risque avec l'humour en fait, c'est comme on évolue vachement et qu'il y a plein de choses qu'on est en train de comprendre au fil du temps. Bah, y a des blagues qui passent plus et d'autres qui passent, mais comme quand on regarde un film des années 90, quoi.
C'est ça, exactement, ouais.
Et aujourd'hui, ça va de plus en plus vite, j'ai l'impression. Donc, Community, c'était il n'y a pas si longtemps et c'est déjà un peu has-been sur certains points, mais c'est dommage.
Ouais.
Donc, du coup, j'ai un peu de réserve, moi, sur, du coup, Community.
Moi, j'ai aucune réserve sur le Dean. Ça reste...
Le Dean.
Oh, le Dean, il est génial.
Ding, 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 ding.
Mais moi, toutes les entrées du Dean, elles sont merveilleuses.
Faudrait faire un montage de tout. Ça doit exister, un montage de toutes ces entrées à chaque fois qu'il arrive.
Oui, oui, je pense que ça existe.
Il est tellement génial.
Il y a même un épisode où ils font semblant de mettre bout à bout des événements, mais en fait qu'on n'a pas vu.
Ouais,
et il y a plein d'entrées du Dean, c'est trop drôle.
C'est vrai. On l'a vu il n'y a pas longtemps, cet épisode.
Non, mais Chang aussi, il est trop drôle.
Chang, il est incroyable.
Il est incroyable.
Surtout quand il est prof d'espagnol, en fait.
Ouais.
Senior.
Moi, je trouve que là, il est Senior Chang, il est incroyable. Et alors, j'avais jamais remarqué qu'il y avait un drapeau italien dans la salle.
Ah, j'ai pas vu.
J'ai pas vu.
Vous avez pas vu?
Mais non, attends, c'est pas le drapeau italien, c'est pas le drapeau mexicain.
Non, non, c'est un drapeau italien dans le espagnol.
Non,
je te jure, regardez les premiers épisodes, tu lances le premier épisode et tu vas voir, il n'y a que des drapeaux italiens partout.
Ah, génial, putain, ils sont
C'est tellement drôle, putain.
Alors, moi j'adore encore plus, ce que j'aime encore plus que regarder Community, c'est regarder les bêtisiers de Community.
Ah, bah oui, moi aussi.
Parce que c'est fantastique. Bon, y a,
ils sont tellement drôles.
Évidemment, Annie qui fait. Qui fait du rap. mais il y en a tellement d'autres.
Ouais.
C'est fantastique.
Non, non, c'est très très drôle, ouais.
Donc, bon,
très bien.
Attends, il faut que j'enlève ça, il faut que je mette ça. Voilà.
Tout va bien?
Ouais, mais il y a des gens qui me parlent, ça fait un bip, ça m'énerve.
Excuse, c'est Madame est populaire. Ouais,
mais non, c'est le travail.
Ça m'énerve.
Bien. Est-ce qu'on enchaîne, ouais.
Voilà.
On
enchaîne sur le nouveau format de cette saison 2. Hein. Il faut savoir se renouveler. Il faut savoir faire
c'est vrai, c'est important.
Et donc du coup, on a décidé pour pas que ce soit chacun des épisodes, ou que ce soit juste nous qui disons alors comment ça se passe le confinement et qu'on redise à peu près les mêmes trucs. On a décidé de pimenter un peu ça en demandant.
On passe une longue partie de Burger Quiz.
Ouais, vous comprenez. Mais on a décidé de demander à nos interlocuteurs De bosser, ouais, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que nous qui le fassions. Et, mais non, mais ça m'énerve, ils vont la fermer, les gens, là.
Excusez-moi, mais en silencieux. Les bips.
Mais non, mais c'est en silencieux, mais je comprends pas comment ça se fait que...
Quelle appli?
De tout. Je sais pas. De WhatsApp. Et enfin bref, là, normalement, ça devrait le faire. Excusez-moi.
C'est pas de mal.
Et donc... C'est le direct, okay. C'est les aléas c'est du direct.
Les aléas. C'est les aléas, absolument.
Et donc, du coup, on a demandé à nos invités de préparer des histoires. Alors, soit histoires extraordinaires qui se sont passées dans leur vie, ou histoires extraordinaires qui se sont passées dans leur ville, ou histoires...
Un personnage, quelqu'un.
Ouais, raconter la vie de quelqu'un qui a un lien avec la ville, le quartier, que sais-je. Des trucs comme ça. Ou juste des histoires... cool à raconter, quoi.
Ouais, voilà.
Enfin, vraiment, il n'y a pas de...
Des aventures de bourrée absolument incroyables qui t'amènent de trépidantes aventures en voilà. Expérience. Enfin, bon, voilà.
Et donc on commence, on inaugure ça avec toi, Agathe. Alors d'abord, alors pour ce premier épisode, nous aussi, on a bossé.
Ouais.
Donc, pour ce premier épisode, on va raconter trois histoires différentes.
Oui.
Mais après, les prochains épisodes, ce sera juste l'invité, parce qu'il ne faut pas déconner quand même.
Oui, c'est bon. Il y en a qui bossent. Hein.
On ne va pas faire trop de travail non plus. Voilà. Donc, si vous êtes prête, on a décidé que c'était Marion qui commençait. Et après, est-ce que tu veux enchaîner, Agathe, ou est-ce que moi ou...
Oui, je peux enchaîner.
Ok. Bon, de toute façon, on va enchaîner. Faire ça au fil de l'eau, quoi.
Absolument.
Alors, Marion, on très t'écoute. Bien.
Et eh bien alors moi j'ai choisi la vie d'une paloise.
Ok.
Voilà.
Oh yeah.
Donc voilà. Retour aux sources.
Retour aux sources un peu, okay. Retour aux fondamentaux. Parce que il se passe, j'ai un peu galéré parce qu'on va pas se mentir, il se passe pas masse de trucs non plus chez nous.
Enfin il se passe des trucs mais assez morbides quoi.
Alors moi j'ai évacué le morbide parce que sinon là par contre effectivement on avait toute une encyclopédie. Hein.
Oui.
Mais... excuse-moi.
Bah.
Je veux dire, partout, il y a du morbide.
Oui, mais du coup, chez nous, c'est un peu les trucs récents, c'est un peu ça qui ressort en premier.
Oui.
Tu vois, on se tape déjà Bayrou et on s'est déjà tapé Manix en dirigeant la section paloise, en plus d'être
ça parle à personne,
ça. Ça parle aux gens qui savent. Les vrais savent. T'inquiète pas. Les gens qui nous écoutent
sont... sélectionneurs de la section paloise.
Oui, mais écoute... Eh bien, on s'en est débarrassé et c'est très douloureux.
C'est un podcast de niche.
Alors, écoute, on s'en est remis, c'était douloureux. Bref, ma niche d'émission. Bref, donc je vous emmène à Pau et donc j'allie un petit peu donc deux de mes passions, donc l'histoire, les figures de femmes fortes, voilà deuxième passion. Et puis un truc un peu comme ça, frivole léger, la Seconde Guerre mondiale.
Ah mais quoi ? J'aime bien. Attends, mais on a fait un peu les mêmes trucs.
Moi, parce que j'aime bien, c'est bon. Voilà,
vous verrez mon histoire.
Ça met l'ambiance. Donc, je vous présente Henriette Bidouze, née Séguée, donc Henriette Pierrette André, dite Ginette.
Donc. Putain, c'est une résistante ?
C'est une putain de résistance.
Mais moi aussi.
Oh yeah.
Putain,
mais
chier.
C'est pas grave, tant que c'est pas la même.
Oui, vas-y.
T'inquiète. Bon, bref.
On va faire un concours de résistante.
Oui, c'est moi, ça. Je suis allée dans le morbide, hein, donc
yes
voilà. Bon, attends, voilà, ça contrebalance un peu, ça fait...
Ça va contrebalancer.
Ça équilibre. Donc...
Enfin, il me semble que dans la résistance, enfin, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu pas mal de morts, donc ça va.
Bon, pas tant.
Ah non.
Morbide à mort, ok.
Donc, je vais mettre des lunettes. Bon, bref. Donc... Henriette est née le 14 juin 1921 à Pau, à l'époque Basse-Pyrénées. Voilà. Et donc elle a une vie assez trépidante, et notamment pendant la Seconde Guerre. Alors déjà, Henriette, elle est dans un milieu quand même assez, assez motivé, puisque donc son père fait partie du Parti communiste, donc déjà on est de... Ouais. On est chaud, voilà. Voilà, c'est pas les derniers. Sa mère aussi, voilà. Berthe, voilà. Donc ses deux parents déjà font partie du PCF, et puis son frère aussi, parce que comme ça c'est complet. Voilà. on a le jeu des sept familles.
Ok, ouais.
Voilà. Donc notamment sa mère, donc qui militait au sein du Comité mondial des femmes contre la guerre et le fascisme.
Voilà. Putain, classe. Je savais pas que ça existait ça.
Ah oui, non mais on est bien. On est okay. bien, on est chaud. Alors, Hitler arrive. Je peux t'assurer que à Jurançon, parce que c'est là où ils habitent, ils sont pas prêts à se laisser faire.
Voilà. Ok.
Et là, Henriette, tu vas voir ce que tu vas voir. Donc effectivement, son père en 40 donc est arrêté et emprisonné parce que membre du Parti communiste et puis il avait déjà commencé à gueuler un petit peu trop fort, donc on l'a calmé direct.
Ouais.
Il va notamment finir d'abord à l'île de Ré puis dans un camp en Algérie. Voilà.
Ah, original.
Ouais. Original. Oui, là, on voyage un peu. J'étais jolie. Voilà. Tout va plus ou moins bien se terminer pour lui puisqu'il sera libéré suite au débarquement allié en Algérie. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de l'histoire. Mais en attendant, Henriette, elle est vénère. Henriette, elle n'aime pas les Allemands. Henriette, elle n'aime pas les fachos. Sous ses airs de pas y toucher et avec sa bicyclette, elle va transporter des armes.
Mais elle est jeune.
Elle est très jeune.
Elle est jeune quand la guerre... T'as dit 1920...
Elle est née en 1921. Et elle va vraiment commencer à s'investir dans la résistance en 1942.
Ah ouais, elle a 21 ans.
Ah ouais, non, mais... Et puis, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est à Donf.
Putain, en fait.
Parce que, avant même, donc, la Seconde Guerre, il faut savoir que Henriette, donc, son nom de résistante, c'est Ginette.
Ouais.
Donc, des fois, je vais un peu me mélanger les pinceaux, ouais. Parce qu'un coup, ce sera Henriette, un coup, ce sera Ginette. Déjà avant la Seconde Guerre, donc, bon, vous le savez parce que vous êtes de chez nous, mais pour nos auditeuristes qui ne sont pas, donc, familiers avec l'histoire du Sud... et l'histoire du XXe siècle en général, on n'a pas attendu les Allemands pour inventer les camps de concentration.
Oui.
Voilà. Et donc, à côté de chez nous, il y a le fameux...
Hashtag Gurs.
Voilà. Ouais. Le camp de Gurs, dans lequel on emprisonnait les exilés et les républicains espagnols. Donc, parce que la guerre d'Espagne se déroule à partir de 1936, je le rappelle voilà, pour mémoire.
Ouais.
Donc, les malheureux qui essayaient de fuir Franco pour...
X raisons,
arrivés en France. Au début, on les accueillait, puis au bout d'un moment, ils commençaient à être un petit peu nombreux. Et en plus, on n'avait pas forcément envie, dans un premier temps, de se fâcher avec Franco. Donc, on s'est dit, allez, ça dégage, on va les calmer un petit peu, on va les parquer, être sûr qu'ils ne représentent pas un danger pour la République, etc. etc. Et donc, la famille d'Henriette Bidouze, fait déjà organise des manifestations pour dire que qu'est-ce que c'est que ce
bint. Ouais.
On en a gros. Si rouvrez, on en a gros.
Qu'est-ce que c'est que ce bint.
Là, moi, bien Henriette avec ses petits bigoudis, ça me dit oh, qu'est-ce que c'est que ce bint.
Ses petits bigoudis.
Je sais pas. Elle est sûrement.
C'était déjà ringardeuse, je pense, à l'époque, quand t'as 21 ans, des bigoudis, non. Je sais pas.
Non. Tu rigoles, il faut faire les boucles et tout, mais t'es ouf.
Ouais. Bien sûr. Bah, elle avait pas autre chose à faire que de faire des boucles, franchement, je pense que.
Non, si, bah, t'as raison.
Henriette, je pense qu'elle en avait rien à foutre.
Je pense qu'elle en avait rien à foutre. Moi, je vais te montrer une photo après.
On va lui demander.
Non, elle est décédée.
Ah,
mais. On pourra demander okay. à ses descendants peut-être. Bon, bref. Et donc, elle organisait donc, des manifs et aussi, elle faisait la liaison. C'est-à-dire qu'elle se rendait avec d'autres femmes au camp de Gurs pour essayer d'établir des contacts avec les exilés républicains, voir s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, gueuler sur les mecs qui gardaient, en gros, les flics qui gardaient les camps, et puis leur apporter du secours, échanger des lettres, etc. etc.
Okay.
Donc déjà, avant même la guerre, on était chaud patate ouais. chez les Bidouze. La guerre arrive, ça ne fait qu'empirer, et puis plus ou moins naturellement, on entre dans la résistance.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On ne va pas se soumettre, on n'est pas, pas. Non, ce n'est pas ça chez nous.
Ouais. Ouais.
Donc voilà. Et donc, en 1942, elle est contactée donc, par la résistance pour mettre en place ce qu'on appelait les comités féminins. Okay. Et les comités féminins, en fait, qui étaient déjà connus, donc, je viens de le dire, pour les actions en faveur de l'Espagne républicaine, en fait, se prolongent et vont s'organiser. Et elle va être en charge de la cellule de tout le Sud-Ouest. Youn, okay. c'est 21 ans. C'est-à-dire que elle va être en charge d'opérer des liaisons entre la ville et le maquis.
Okay.
Parce qu'en 1942, ça commence sérieusement à chauffer,
ouais.
notamment pour les Allemands.
Ouais.
On est au début, donc pour faire un petit parallèle, on est au début de la solution finale. Donc en gros, on commence à systématiquement éliminer tout ce qui ne rentre pas dans le cas du Troisième Reich en Allemagne et en territoire occupé ou annexé. Mmh. Mais aussi 1942, c'est le basculement de la guerre où ça commence à sentir de plus en plus le roussi à l'est comme à l'ouest pour les Allemands.
Et donc, c'est là où la résistance va vraiment se structurer de manière de plus en plus efficace, et où les gens qui, peut-être hier, dénonçaient leurs voisins sentent que le vent va tourner, et donc, c'est mieux d'être résistant, ouais, peut-être à ce moment-là aussi.
C'est pas le moment aussi où les Allemands, ils arrivent en zone libre, slash la zone sud.
En 42 ou 43. Ah non, en 42, ils sont chez nous déjà.
Non, chez nous, enfin à Pau, oui.
Oui.
Mais toute la côte ouest, elle faisait déjà pas partie de la zone libre.
Non. Oui, non, non.
Donc, mais après, j'en parlerai après, mais il me semble que c'est à ce moment-là aussi et que du coup, la résistance devient
beaucoup plus vénère,
aussi vénère. Ouais.
Et donc, du coup, était forcément un peu plus organisée donc dans la fameuse zone libre, donc du côté donc un peu plus à l'est donc que chez nous, parce que nous on était déjà occupés. Mais voilà. Et donc Henriette, donc Ginette de son nom de résistante, donc va s'associer donc avec la résistance et le maquis. Et puis surtout, elle va organiser donc le 14 juillet 42 la manifestation de patriotes et anti-allemandes. Donc en fait, qui a eu dans toute la France, notamment à Paris, à Marseille, enfin dans les grandes villes, et aussi à Pau. Où en fait, on a demandé aux gens de sortir pour la fête nationale comme un moyen d'acte de résistance contre l'occupant.
Ok.
Et donc, elles vont se réunir, je crois qu'elles étaient, si je me souviens bien, elles étaient genre 150 femmes à manifester ce jour-là.
À Pau ?
À Pau.
Ok.
C'est pas mal quand même.
Pour, ouais, classe, ouais.
Tu vois ? Oui, ça fait son nom quand même, tu vois, si on n'est pas dans une très grande ville. Enfin bon, voilà. Donc, voilà, et donc alors attends, que je ne me perde pas trop dans mes notes. Ensuite, parce que, attends, c'est où l'anecdote? Je veux retrouver cette anecdote, mais je crois que c'est dans les archives. Donc là, moi, je suis sur donc, la page du mouvement ouvrier et du mouvement social, donc le Métron, voilà, qui est une mine d'or pour les archives de la résistance et du mouvement ouvrier en général. Et oui, donc il y a cette fameuse anecdote où en fait elle est avec une amie à elle. Et donc jusque-là, effectivement, donc elle était chargée des tracts, elle était chargée de manifestations, des relations avec le maquis, mais pas vraiment d'être dans la résistance armée, on va dire.
Mm-hmm.
Voilà. Parce qu'on reste qu'en 42 et qu'on considère que les comités féminins, ça reste des comités féminins. Bref, ouais. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, ça chie dans la résistance dans le maquis, notamment du côté de Tarbes. Et qu'il va falloir organiser un transport d'armes, et qu'on n'a pas de moyens de les transporter, parce qu'effectivement, la police française et allemande commence à être de plus en plus méfiante. Donc on va demander à deux charmantes jeunes filles, dont Ginette, de transporter des armes. Un peu à la volée, c'est complètement improvisé, c'était pas du tout censé se passer comme ça. Mais en gros, elles ont fait donc Pau-Tarbes, à vélo, avec dans leur sacoche des énormes guns.
Elles ont monté la côte de Quaraz et tout, là ?
Sûrement. Donc, et en chemin, parce que si c'était d'une traite, ce serait trop simple, évidemment, elles croisent, messieurs, les gendarmes.
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez pas l'autorisation, c'est... Voilà. Vous n'avez pas votre attestation, machin, mais qu'est-ce que vous branlez ?
Vous n'avez pas votre attestation de sortie.
Il fallait justifier le chemin. Qu'est-ce que vous
faites
là ? Vous
n'avez pas coché la bonne case ?
Bah ouais.
Ok.
Attendez, mais...
Transport illégal d'armes, ça ne figurait pas sur le paplard, tu comprends ? Bon, bref.
Je vais faire les courses,
ouais, voilà,
je vais à la pharmacie, je transporte illégalement des armes.
On était clairement à plus d'un kilomètre du lieu de résidence.
Oui.
Donc, et donc voilà, et en fait, elles ont joué les greluches, voilà.
Ouais.
Et ces cons gendarmes ont été assez fédés pour les croire.
Ouais.
Ah non, mais vous comprenez, en fait, voilà, il faut qu'on aille chercher dans une ferme à côté du fromage. Qu'est-ce qu'il faut aller ?
Attends, je sais pas.
Tu es en train de nourrir mon chat, pardon.
Ah oui.
Ah ouais. Mais je t'écoute, hein.
Tu es là, t'es en train de.
Bon, bref.
Je t'écoute.
Non, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup. Donc elles sont obligées de s'arrêter et avec les énormes flingues dans les sacoches des vélos. Ça met donc ces deux sacoches en cuir comme ça sur les vélos. Donc là, elles commençaient sérieusement à mouiller de l'arrêt. Je vais vous le dire.
Oui.
Parce que c'est quand même pas. Tu vois, là, tu te fais choper, c'est. Bon.
Bah, c'est une balle derrière la tête, non?
Bah ouais, ouais, ouais. Et donc, pour s'en sortir du mieux qu'elles pouvaient, en fait, elles ont dit qu'elles transportaient de la nourriture qu'elles n'étaient pas censées transporter. Parce que ça aussi, il y avait des restrictions, il y avait des...
Ouais.
Donc, oui. Tu pouvais pas faire ce que tu veux non plus, des rationnements, etc. Et en jouant vraiment, les deux petites filles perdues, genre, oh, on est désolées, vraiment, mais vous comprenez, c'est dur, machin, nanana. Et le gendarme, bon, il était là, bon
mais d'accord, bon,
mais écoute, ça passe pour cette fois.
Vas-y, ma mignonne.
Allez, bon, ouais. Ça va pour cette fois, okay. Mais faites gaffe.
Ouais.
Voilà. Et donc, ok, salut, bonsoir.
Ah, c'est pour ça.
Plus... La seule fois où le machisme nous aura servi à quelque chose.
C'est ça.
Voilà. Et puis, bon, ils se sont dit, bon, pour deux japonais, on va peut-être pas faire une arrestation en bonne uniforme.
Ouais, bon, ouais, il faudrait pas trop s'épuiser.
Voilà, ça c'est bon, c'est bientôt l'heure de l'apéro.
Et les gendarmes de Quaraz, je
pense que. Bon, voilà. Bon, bref. Et donc, les voilà repartis sur leur vélo. Et donc, elles ont pu donc, amener aux résistants voilà, les armes qu'il fallait. Et...
Trop classe.
Et puis, continuer la lutte, quoi. Voilà.
Ouais.
Et donc, après la guerre, donc, elle va être. Elle refuse tous les honneurs. Sans branle. Ouais. J'ai pas fait ça pour la gloire. Hein. C'est une tradition familiale. Donc,
ouais.
J'ai pas besoin de. Pas besoin qu'on me félicite pour la République, par la République, pour savoir ce que j'ai fait. Voilà. Et donc ensuite, elle va déménager à Tarbes, justement, où elle va continuer en fait d'avoir d'être à la tête donc du comité féminin qui va un petit peu se transformer. Et puis elle va même monter à Paris, où là elle va prendre la direction nationale de ces fameux comités féminins du Parti communiste. Voilà, donc avec quelques figures, alors moi je les connaissais pas, mais notamment Simone Bertrand, Claudine Chaumat ou Marcel Barjonnet. Voilà.
Et faut qu'on se surnomme comme ça en fait.
Ah, grave.
Enfin, c'est nos nouveaux pseudos ouais, sur les internets.
Ouais.
Je prends Claudine.
Si tu veux. Moi je peux m'appeler. Il y a Fernande Valignat aussi.
Ah,
ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal. Bon, voilà. Et puis, alors attendez, pour la petite histoire, donc juste sa vie ensuite, donc elle adhère à la CGT par conviction, mais bon, bof, enfin, juste parce que c'est ce qu'il faut faire un petit peu à l'époque, quoi, mm-hmm. Mais bon, sans conviction aucune. Donc de 47 à 77, donc elle est à la Fédération du PC, elle publie dans quelques journaux aussi de gauche. Après avoir été donc permanent durant 30 ans, elle considère qu'à 56 ans, bon, elle a fait le taf, donc elle va peut-être prendre sa retraite. donc elle a été assistante du groupe communiste du Sénat de 78 à 81. Voilà. Et donc après la guerre, en août 52, donc, elle épouse donc son amie d'enfance, René Bidouze,
okay. Voilà,
qui était aussi lui aussi de Jurançon. C'est comme ça qu'elle devient Madame Bidouze. Et qui lui aussi fait partie du PC et qui avait lui aussi fait de la résistance. Voilà.
Trop classe.
Voilà. Et lui, pour la petite histoire, est-ce qu'on a une... Je crois pas que là... Non, là, c'est vraiment sa page à elle, donc on n'a pas d'infos sur lui. Mais oui, voilà.
Ok.
Voilà.
C'est bien, très belle.
Voilà. Trop cool.
On l'embrasse, hein, du coup.
Ouais.
Cette petite meuf trop, trop stylée. Voilà. Mais du coup, je propose que, en fait... Je passe avant toi, Agathe, parce que moi, ça, c'est aussi un peu dans la même veine.
Ah, ok.
Donc, comme, okay. Je sais pas, mais comme...
Ah
ouais,
ça me va.
Ouais, ouais,
comme ça, on reste sur les meufs de la résistance.
Ouais.
Et ensuite, on enchaîne sur,
sur ton truc. Le Moyen-Âge. Moi, je suis sur le Moyen-Âge.
Yes. Bah, parfait.
Hyper classe.
Parfait.
Ok.
Ben, merci pour cette jolie...
Merci, Marion.
Ah oui, elle...
Ah oui, oui.
On t'enverra la photo, Agathe.
Il y a du bigoudi.
Ah, il y a du bigoudi.
Ah, il y a du bigoudi.
Il y a de la bigoudi.
Ah,
il y a de la bigoudi. Ça bigoude grave.
Il y a de la bigoudi.
Ah, bah t'es.
Tu peux pas me l'envoyer maintenant?
Si
que je réagisse.
Elle va te l'envoyer.
Que je réagisse en live.
Ouais, t'inquiète.
Je
vais essayer de
me
trouver, ouais.
Ok.
Alors, bon, alors, ben, moi, du coup, j'enchaîne.
Ouais.
Donc, alors, j'ai voulu expressément ne pas raconter une histoire sordide de meurtre. Parce que même
si
j'en avais grave envie, mais je sais pas, je me suis dit, je sais pas, je me suis dit, je vais me garder des meurtres pour d'autres histoires plus tard.
Ok.
Donc moi, je raconte une histoire sur Toulouse. Et donc je suis tombée sur l'histoire d'une nana super classe qui s'appelait Marie-Louise Dissard, mm-hmm. Et qui habitait au 42 rue de la Pomme. Donc moi j'avais
vous, voyez, vous connaissez cette rue?
Ouais.
Okay. C'est une rue un peu connue à Toulouse.
C'est au centre-ville de Toulouse, c'est juste derrière le Capitole. Et c'est dans cette rue qu'habitaient Justine et sa grande sœur quand on était en première année de fac. Donc autant te dire que c'était, en plus c'était au bout de la rue, il y avait la boîte feu, la boîte Le Shanghai,
ah, putain,
qui était gratuite.
Ouais.
Et donc on l'a arpenté cette rue et plus d'une fois.
Ok.
Et souvent nuit, okay. Et pas souvent sobre.
Donc, mais est-ce que au 42 rue de la Pomme, t'as déjà vu une plaque qui commémore Marie-Louise Dissard?
Sûrement pas. Ben, voilà. On ira voir. On ira en pèlerinage.
On ira voir, ouais. Donc ouais. Marie-Louise Dissard, elle est née le 5 novembre 1881 à Cahors, rue de la Liberté.
Ah, ok.
Ouais. Son père, Guillaume, est professeur et sa mère, Hélène, est modéliste, ce qui veut dire qu'elle crée des patrons de croquis et de vêtements.
Des chapeaux, non? Ah, ok. Ah non, oui, d'accord.
Non, en fait, quand elle a les croquis, elle, après, elle crée le
patron. Oui, ok.
Donc, elle a sa mère, Hélène, elle tient un magasin de mode dans Cahors et toutes les richoux du Lot viennent s'habiller pour se la péter au bal de la région.
Très bien.
Cool.
Et oublier un instant qu'elles vivent dans le Lot.
Arrête, c'est bien le Lot.
Donc,
c'est MTC, c'est là où il y a le moulin.
Oui. Mais bon,
c'est trop bien le Lot, c'est magnifique.
Donc, des corsets immétables sont de mise à la fin du 19e siècle, avant d'être petit à petit abandonnés par des tenues plus légères et, soit dit en passant, qui n'empêchent pas les fonctions vitales. Oui. Mine de rien, le magasin d'Hélène leur permet de faire fortune, parce que c'est pas le boulot du père, hashtag prof. Qui ramène des pépettes, hein. Il y a des choses qui ne changent jamais. Et donc la famille déménage à la campagne, dans une plus grande maison, et Marie-Louise s'y fait atrocement chier. Elle cultive son imagination débordante, je ne sais pas lire, hein. Je ne vous ai pas dit. Et elle devient un peu rebelle sur les bords. Elle ne brille pas à l'école. Mais elle est inspirée par tout ce qui se rapporte aux arts manuels et graphiques, genre dessin, peinture et couture principalement. Son petit frère, Jean, rentre dans les ordres et est envoyé chez les jésuites. Bonne ambiance. Ses parents sont très fiers de lui.
Oh, bah, tu m'étonnes.
Alors qu'elle, par contraste, elle devient un petit peu le vilain petit canard de la famille. Et du coup, elle ne va pas s'en gêner pour faire des caisses. Voilà. Donc à 21 ans, en 1902, elle cherche un emploi et devient maîtresse d'internat à Carcassonne. Okay. Donc, elle se barre de sa campagne. Elle a le cul. Comme toute jeune adulte saoulée des conventions sociales et des attentes de ses parents, elle quitte donc sa campagne lotoise. Elle se lève et elle se casse, bien avant que ce soit cool. Donc, maîtresse d'internat à Carcassonne, elle va ensuite à Toulouse et elle se retrouve dans la ville à bosser dans différents lycées pour filles. Elle trouve sa liberté dans le travail à une époque où l'émancipation des femmes ne se fait quasiment que par le mariage.
Ouais.
À 30 ans et des poussières, elle en a marre d'être dans l'éducation et plaque tout pour ouvrir sa petite boutique, rue de la Pomme, qu'elle nomme « À la poupée moderne », où elle vend ce qu'on appelle à l'époque des « frivolités féminines », donc des accessoires et des habits de sa propre création.
Excellent.
Aujourd'hui, à la place de cette boutique, se trouve une bijouterie appelée « Imagine ».
Ah oh, voilà. Oui, je vois très bien.
Visiblement, on est sur un thème non ringardos.
Ah, très bien. Voilà. Okay.
Donc, elle a du succès avec sa petite boutique. Elle reçoit même des commandes du théâtre du Capitole. Bref, la belle vie.
Oh, ouais,
cool. Belle vie pour Maloche. Pendant ces jeunes années folles, des années 20 aux années 30, elle s'emmourage d'un homme avec qui elle va vivre hors mariage.
Allez.
Elle va vivre avec lui pendant des années.
Donc
j'ai rien trouvé sur leur histoire d'amour.
Oh.
Mais je suis sûre qu'il ressemblait à James McAvoy.
C'est sûr.
Avec un petit béret, un pantalon qui monte sous les aisselles, là.
Et une petite moustache.
Une petite moustache, un Marcel avec un petit peu de gras de saucisson dessus.
C'est voilà. Sûr.
Pour moi, c'est à ça qui ressemble.
C'est sûr.
Ah ouais, pour moi, il est beaucoup plus distingué que ça.
Ah ouais, tu l'imagines comment, toi?
Ah non, mais moi, je l'imagine de James McAvoy, mais il a pas de tache de saucisson sur son Marcel, quoi.
Ben, mais si, tu vois, un petit peu, parce qu'il est là, genre, bon, enfin, il est dans la vie du quartier, quoi.
D'accord.
Moi, je le vois filer dans les rues, sur son vélo, avec des poireaux et des baguettes dans le panier du guidon, tu sais. Et le mec, j'aurais s'appelé Albert. Enfin, bon, voilà.
Ouais, on y est.
Ouais, Bébert et Maloche,
ouais.
Oh là là.
Donc, il file le parfait amour jusqu'à ce que la Deuxième Guerre mondiale éclate.
Oh non.
Comme quoi, les nazis ruinent toujours tout, comme d'habitude.
Quelle histoire, ça aussi.
Quelle histoire. Donc, en septembre 1939, Bébert part à la guerre.
Oh.
non.
Et c'est la dernière fois que Marie-Louise le verra.
Oh non.
Alors là, je suis pas sûre de moi, mais si, à peu près, quand même. Voilà.
Ah ouais.
Il y a de grandes chances.
Ouais, on en reparle plus jusqu'à la fin de l'histoire, et donc voilà. C'était. J'ai dit ça un petit peu pour le côté un peu dramatique, mais je suis presque sûre de mon coup qu'elle le revoit plus du tout.
Oh non, c'est trop triste. Ouais.
Il est rapidement fait prisonnier et envoyé dans les Stalags, abréviation de Kriegsgefangenen Mannschaft Sturmlager, ou camp ordinaire de prisonniers de guerre. Voilà.
J'aurais pu t'aider avec ça peut-être, non?
Non, non, non. C'est bon. Et donc il est envoyé en Allemagne au moment où la France capitule. Marie-Louise, qui est profondément antifasciste, part elle aussi en guerre, à sa façon. En novembre 1940, elle fête ses 59 ans, lorsque le maréchal Pétain vient à Toulouse pour sa première visite en zone libre.
Bouh !
Ouais. Donc la zone libre étant la zone au sud de la France sous le contrôle du gouvernement de Vichy, mais pas occupée par l'armée allemande à ce moment-là.
Voilà.
Elle use de ses contacts et de sa nature commerçante pour diffuser des tracts et les messages d'un homme encore inconnu, un certain général de Gaulle.
Qui ?
tu vois pas ?
Non, je
ne connais
pas.
Un type.
Un grand type.
Ouais. Il a sorti un CD de titre à l'époque. Ça a fait un fond.
Il était number one.
Il était number one dans les bacs.
L'appel.
Voilà. number one dans les charts. L'appel. Donc, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Elle ne se fait pas que des amis à ce moment-là.
Oui,
tant et si bien qu'une enquête est ouverte sur elle en septembre 41. Qui conclut dans son rapport qu'elle souffre d'un déséquilibre mental.
Ah bah tiens.
Après tout, une femme qui gueule, c'est forcément une cinglée. Donc Marie-Louise, elle s'en tamponne un peu, hein, elle utilise ce rapport à son avantage, en accentuant sa prétendue hystérie, qui la discrédite auprès des autorités locales, pour faire des coups en douce sans éveiller les soupçons.
C'est parfait ça.
Trop forte.
Elle
est géniale.
Elle entre ainsi en contact avec un groupe de résistants toulousains, le réseau Berthaud.
Ah oui!
Alors, le réseau Berthaud, du nom d'un du résistant universitaire germaniste, comme toi, Marion.
Oui.
Pierre Berthaud, qui avait été fondé en décembre 40 entre Toulouse et Clermont-Ferrand. Il reçoit des parachutages pour organiser des actions de sabotage dans la région. Marie-Louise intègre ce réseau sous le pseudonyme de Victoire. Et elle diffuse des tracts et récolte des renseignements pour les résistants. Cependant, le réseau est rapidement démantelé et ses membres emprisonnés. Victoire échappe à la prison et se débrouille pour ravitailler ses camarades en prison toutes les semaines.
Oh,
toutes les semaines, elle va les ravitailler. Ah ouais, elle est incroyable. Oh, mais c'est pas fini encore, hein. Attendez.
Formidable.
En 1942, Marie-Louise fait une rencontre décisive lorsqu'elle croise la route du docteur Albert Guéris, alias Pat O'Leary, un officier belge qui, lors de la capitulation de la Belgique en 1940, s'enfuit avec les Anglais en repli à Dunkerque. Il est rapidement renvoyé en France où il frôle la capture et après moult péripéties, il se re-retrouve en Angleterre où il reçoit un entraînement de 6 semaines d'agent pour des missions d'infiltration en territoire ennemi. Il doit prendre un nom anglais afin de ne pas être reconnu comme belge en cas de capture et il choisit O'Leary, le nom d'un Canadien français qu'il avait côtoyé pendant ses études. Et comme c'est un nom à consonance irlandaise, les Anglais lui attribuent d'emblée le prénom de Patrick. Pas trop cliché.
Non, pas trop, ça voilà.
Sacré Patoche. Donc Patoche, c'est comme ça qu'il se retrouve impliqué dans un réseau de rapatriement de militaires anglais et canadiens restés coincés sur le sol français après la capitulation.
Maudite français.
Il est envoyé dans le sud-est de la France et est rapidement placé à la tête de son propre réseau, la Patline.
trop bien.
J'adore. je trouve ça fait un peu pas de patrouille, tu sais.
Mais oui, grave.
Bon, c'est pas le même délire, mais voilà.
Non. Donc,
ce réseau, il est spécifiquement chargé de récupérer les pilotes alliés tombés en territoire occupé. Donc d'abord anglais, canadien, et puis ensuite américain aussi. Marie-Louise, de par ses nombreux contacts, est une alliée de choix pour Pat, qui lui confie l'organisation des transits par Toulouse. Donc en fait, les aviateurs, etc., ils étaient transités par Toulouse pour aller en Espagne, pour ensuite, depuis l'Espagne, pouvoir fuir vers l'Angleterre.
Okay.
C'était la route la plus simple, ouais, la moins surveillée, j'imagine aussi, et surtout pendant quand il y avait encore la zone libre. Elle prend le nom de résistante de Françoise, change de nom, voilà.
Elle installe le QG du réseau chez elle et s'occupe personnellement de la réception, de l'hébergement, du camouflage et du convoyage des aviateurs anglais, puis américains, pour les remettre à des passeurs en Espagne.
Putain, la meuf.
Elle est incroyable. Incroyable.
On est toujours rue de la Pomme, là.
On est toujours rue de la Pomme, ouais. Merci. À partir de novembre 1942, les Allemands envahissent la zone sud, ou zone libre, plus libre que ça, du coup, ce qui rend les activités du réseau plus compliquées. Comme Marie-Louise, alias Françoise, s'est faite une petite réputation, elle est sollicitée par des mouvements de résistance comme Libération Sud. Donc, fun fact sur ce mouvement de résistance, c'est un des 8 mouvements qui constitue le Conseil National de la Résistance. Il a été fondé par Emmanuel Dacier de la Vigerie, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, le philosophe Jean Cavaillès, et aussi Georges Zerafa, fondateur de la LICRA, donc Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme, et Raymond et Lucie Aubrac.
C'est tout, quoi.
C'est tout. À partir de 1941, il publie un journal appelé Libération, qui va paraître jusqu'en 1964, et par la suite, Jean-Paul Sartre et Serge Julie vont reprendre ce nom pour la création de leur quotidien, le Libé qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, c'était un petit fun fact sur Libération Sud. Bref, revenons-en à nos moutons. La résistance s'intensifie, mais devient plus compliquée et plus clandestine encore, vu que les Allemands sont partout. En mars 1943, la Gestapo démantèle complètement le réseau Patolliri, après dénonciation d'un certain Roger le Légionnaire. Alors, Roger le Légionnaire, je peux vous dire, c'est un sacré connard. Il avait été recruté début janvier 1943 comme...
Déjà, c'est un légionnaire.
Ouais, un ancien légionnaire. C'est, en fait, son vrai nom, c'est Roger le Neveu. Alors, je te dis pas, le mec, il est légionnaire et neveu. C'est bon.
C'est oh, c'est nul, Claire.
Et bon, on fait ce qu'on peut, ok.
Pardon.
Donc celui-ci, il avait été recruté début janvier 43 comme convoyeur d'aviateurs sur la ligne Paris-Toulouse.
Ok.
La première mission qui lui fut attribuée, c'était d'amener un aviateur australien à Toulouse, et ce fut un échec. Il a dit qu'il a réussi à s'enfuir après une arrestation à Tours, mais pas l'aviateur. Bon, en fait, c'était complètement vendu et c'était du flan complet. Mais à l'époque, le reste du réseau ne se méfie pas plus que ça parce qu'ils imputent cet échec à son manque d'expérience vu que c'était quelques semaines après qu'il était recruté. Donc, c'était la première mission qu'il faisait. Donc, voilà. Mais il enchaîne erreur sur erreur, entre guillemets. Des résistances sont arrêtées sur des passages qu'il avait au préalable vérifiés. Et début mars 1943, soit 2 mois après son arrivée, il fait arrêter Pat O'Leary ainsi que 2 de ses agents dans un bar à Toulouse, alors qu'il était venu préparer un convoyage avec Françoise.
Putain, bâtard. Ouais.
Donc ils se font arrêter, alors pas Françoise, hein. Françoise n'était pas là à ce moment-là, mais bon, bref.
Ouais, mais il savait où elle vivait du coup ?
Non, okay. Là non, mais en fait, Pat O'Leary, il était avec deux autres personnes. Ils se sont fait arrêter avant de rencontrer Françoise. Donc l'une des deux personnes qui était avec Pat O'Leary, Fabien de Cortès, parvient à sauter par la fenêtre du train alors qu'ils sont transférés à Paris par la Gestapo après avoir été torturés, pour ensuite être acheminés vers Dachau. Pat O'Leary, il va finir la guerre à Dachau, il va s'en sortir et il va faire des trucs géniaux après. Mais voilà, bon. Donc Fabien de Cortès, il saute par la fenêtre du train. Et il rejoint un agent du MI9 à Genève, donc c'est le service secret britannique, pour transmettre un message à Londres. Donc le message, c'est « Fabien demande qu'il soit envoyé à toutes les organisations l'ordre de tirer à vue sur Roger le Neveu ou Roger le Légionnaire. Stop. Il se peut que Roger soit complice de Cole, je répète, de Cole. Stop. Oh terminé. »
Ah ouais.
Voilà. Sauf que tout ça a été ignoré.
Putain.
Ouais.
Et bah donc, pourquoi si...
Ben, je sais pas. Et donc,
Ils l'ont laissé en vue, les gars. Ouais.
Et donc, les réseaux de résistance sur place ont continué leur activité sans mesurer les risques encourus.
Attends, mais ils n'ont jamais reçu le message
ou... Si, à Londres, ils ont reçu le message, mais le message Londres n'a pas été transféré aux résistants en France.
Mais putain.
Au réseau qui était coordonné.
Mais quelle bande de branques.
Ouais. Alors, ainsi donc, Roger le Légionnaire continue de piéger les résistants du réseau Pat O'Leary. Mais pas que. C'est les résistants de ce réseau qui ignoraient cette trahison. Donc, un autre réseau a été particulièrement touché en Bretagne. Celui-ci coordonnait l'acheminement des aviateurs de la Bretagne à Paris, qui était ensuite acheminé vers l'Espagne par Toulouse via la Pateline. Donc, beaucoup de ces résistants ont été déportés à Buchenwald et à Auschwitz.
Buchenwald.
Putain, c'est horrible.
Ouais, ça c'est assez triste. Mais bon. Qu'advient-il alors de Françoise?
Bah ouais, putain. Ouais.
Alors Françoise, à la suite du démantèlement de la Pateline et l'arrestation de Pat O'Leary, elle se retrouve de nouveau toute seule.
Ouais.
Elle a sauvé des papiers compromettants et fait profil bas en se barrant à Cahors où personne ne va venir la chercher.
Okay. Tu m'étonnes.
Mais elle compte pas se cacher 100 ans non plus parce que elle oui, pète le feu quand même. Hein. Enfin, ouais. C'est quand même une nana de 60 ans là, énervée comme pas deux. Et elle retourne rapidement à Toulouse. En attendant, comme le réseau a été officiellement anéanti, les services britanniques suspendent les financements et les opérations. Françoise ne compte pas se laisser faire et se rend en Suisse pour rencontrer l'ambassadeur britannique et le persuader de reconstituer le réseau d'évasion. Alors, il faut vous imaginer quand même une petite couturière d'une soixantaine d'années. Les binocles sur le pif, qui baragouine trois mots d'anglais qui va tirer de l'argent des poches d'un ambassadeur à Genève.
Non, mais surtout, comment elle fait pour ne serait-ce qu'arriver en Suisse déjà?
Alors, ça, j'ai pas de détails, mais.
C'est incroyable.
Elle
déjà.
Est incroyable. Donc, elle arrive à le convaincre. Et cela lui permet de mettre en place un nouveau réseau, le réseau Françoise, en mai 1943.
Oh, génial, ouais, le réseau incroyable. Françoise.
Donc, à partir de ce moment, elle reçoit directement les instructions de l'oncle François, alias le vice-consul britannique, qui lui envoie moyens financiers, renseignements et lieux où les colis, les aviateurs en fait, doivent être récupérés et transportés.
Et là, enfin pardon, mais donc là elle est carrément en discussion avec Londres. Et là Londres, ils se disent pas on a un vieux télégramme, on a on vous l'a pas dit et c'est comme ça que votre réseau de résistance il est tombé à l'eau.
Ouais, alors ça j'ai pas de détails sur est-ce que en fait le télégramme il a été vu et ignoré ou est-ce qu'il y a eu enfin tu vois qu'est-ce qui
il
s'est passé
intercepté, mais... est-ce voilà. que machin
parce que là trop, mais en tout cas dis, bon.
Ouais, il y a eu un problème de communication, mais il faut aussi se dire que bon, à l'époque, c'est pas la même communication.
Oui, oui, et même si ça se trouve, le télégramme est tombé dans les mains d'un autre collabo
Donc bon. Donc là, vous me direz comment ça se fait qu'elle échappe toujours à la Gestapo, la
petite, Mais Claire, comment ça se fait qu'elle échappe toujours à la Gestapo?
Eh bien, je vais vous le dire. parce que en fait, non, elle est quand même bien dans leur collimateur, hein.
Ouais.
Parce que ça fait plusieurs fois quand même qu'ils sont là, mais attends, mais l'autre fois, de vieille, là, qu'est-ce qu'elle...
Quelle fois l'ambassade
Qu'est-ce qu'elle a été foutre à Genève, tu sais, enfin bon... Donc, pendant un petit moment, et même pendant un grand moment, elle vit cachée dans des greniers, des caves, d'où elle dirige les actions quand même. Donc, elle se cache dans des garages, des greniers, dans Toulouse, comme ça, et elle coordonne les actions du réseau Françoise. Quand elle doit sortir de ses caves et de ses greniers, elle se déguise pour récupérer des renseignements et des faux papiers. Alors, elle se déguise, alors comme c'est une couturière, en fait, voilà quoi, elle est trop forte. Elle se déguise en veuve éplorée, en paysanne, elle change son accent toulousain pour ne pas éveiller les soupçons des Allemands, lorsqu'elle accompagne ses colis à la gare de Matabio et même jusqu'en Espagne. Elle les accompagne elle-même dans les Pyrénées jusqu'en Espagne.
Ça...
La meuf, mais incroyable.
Putain, mais la meuf, quoi. Génial.
En plus de ça, discrétos, sans que les Britanniques le sachent, elle en profite aussi pour faire passer des résistants français. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les Américains qui en profitent.
J'avoue, tu sais.
Voilà. Donc elle fait passer aussi des personnes qui sont. Où c'est chaud pour eux, elle les fait passer en Espagne. Son réseau s'étend vite à plus de 200 membres et elle va aider près de 700 aviateurs alliés et résistants à traverser les Pyrénées elle-même toute seule
et le groupe de passeurs
mais genre elle aura elle aura une incidence pour le passage d'au moins 700 aviateurs alliés. Son réseau va continuer ses opérations jusqu'à la libération. Un petit moment quand même après, ce qui est quand même assez exceptionnel parce que, enfin, je vais y revenir après, mais voilà. Elle a été l'une des seules femmes en France à diriger seule une organisation de résistance. Un autre exemple étant Marie-Madeleine Fourcade, chef du réseau Alliance. Ça vaut son pesant de cacahuète. Selon le responsable du MI9, pardon. Parmi tous les résistants, au moins 500 Français, Belges, Danois et Hollandais ayant aidé plus de 3000 aviateurs furent fusillés ou moururent dans les camps de concentration. Donc, ça fait
une bonne brochette. Alors, je ne sais pas combien il y a. Enfin, c'est 500 résistants sur combien en tout, je ne sais pas.
Ça, c'est un peu compliqué.
Mais bon, ça fait beaucoup de gens quand même.
Ouais.
En effet, les résistants tels que Patoliri étaient envoyés à disparaître dans les camps Nart ou Nebel dans la nuit et le brouillard. Donc voilà, c'était.
Ah, c'est horrible.
Voilà. Donc les services britanniques estimaient à 6 mois la durée de vie maximale de ces réseaux, car au-delà, délation, trahison et arrestation pouvaient tout détruire, comme ce fut le cas pour la Pateline. Donc le réseau français est d'autant plus exceptionnel qu'il a duré en fait plus d'un an.
Putain.
Ouais. Après la guerre, Marie-Louise d'Issart va continuer son militantisme en créant un centre d'apprentissage féminin en 1956, qui est aujourd'hui le lycée Françoise à Tournefeuille. Elle va recevoir la Légion d'honneur, la Croix de guerre ainsi que la médaille de la résistance en France, mais sera aussi nommée officier de l'ordre de Léopold II en Belgique, officier de l'ordre de l'Empire britannique au Royaume-Uni et recevra également la Medal of Freedom des mains du président américain avec palme d'or.
C'est pas la
plus haute distinction.
C'est incroyable. Oui, c'est la plus haute distinction américaine.
Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école?
Bonne question.
Elle meurt en 1957 d'une maladie. Et voilà donc l'histoire de Françoise, habitante du 42 rue de la Pomme à Toulouse.
C'était trop bien.
Ouais, c'est incroyable son histoire. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites sur elle. Moi, j'ai trouvé toutes les infos sur Wikipédia et sur le site Libération Sud, qui ont fait un article sur elle en fait. Et après, bon, des détails sur les autres. Sur la page Wikipédia, Patoliri et tout. Enfin, Patoliri, il a une vie de ouf. Hein. Aussi, après, il a fait des trucs trop bien. Genre, lui, au camp à Dachau, il a monté un comité de résistance avec les autres prisonniers. Et quand il y a eu la libération, il a été mis à la tête du camp, en fait, coordination de la libération, en fait.
Trop bien.
Un mec de ouf aussi, mais bon, je suis pas allée dans les détails de lui parce que.
Parce que tu avais choisi.
Ouais, voilà. Donc la prochaine fois qu'on passera rue de la Pomme, on pourra voir la plaque qui a été commémorée par, enfin qui a été mise par De Gaulle en. Ah non, De Gaulle c'est à Cahors, il y a une plaque pour elle, mais il y a une plaque là où elle habitait. Voilà.
La prochaine fois que j'irai à Toulouse, on ira.
Ouais, grave.
Trop cool. Voilà. Trop bien.
Hyper classe, putain.
Ouais. Bravo. C'était super.
Eh ben écoute, je suis ravie. Ton histoire morbide maintenant?
Ouais.
Voilà. Alors moi, c'est pas du tout héroïque.
Okay. Allons au Moyen-Âge.
On est au Moyen-Âge, on est au 14e siècle exactement.
Excellent. Ok.
C'est un peu morbide, mais c'est pas une histoire de meurtre.
Ok.
Alors moi, j'habite dans le 13e arrondissement de Paris. Ok. Pas loin des Gobelins. Et donc, je vais parler d'un événement qui s'est produit rue de la Reine Blanche.
Ok.
Alors, la Reine Blanche, c'était pas vraiment une reine, c'était le surnom de Blanche, la fille de Saint-Louis et de Marguerite de Provence.
Ok.
Et elle vivait dans une rue, dans un hôtel, qu'on appelle ensuite l'hôtel de la Reine Blanche. Et en fait, c'était une sorte de palais construit au XIIIe siècle. Okay. Et voilà, ça a donné le nom de la rue, je vais vous expliquer.
Ok.
Et donc, ce palais a été le témoin d'un terrible accident le 28 janvier 1393.
Tintin.
Aussi appelé le bal des Ardents.
Oula,
ok.
Alors,
putain.
Pour contextualiser, l'histoire se concentre sur le roi Charles VI.
Okay.
Charles VI, il est marteau.
Ok.
les historiens pensent qu'il souffrait de schizophrénie paranoïaque.
Ah ouais, merde.
Là, il a des crises de paranoïa et de colère très fortes.
Ok.
Et l'été avant le fameux bal des Ardents dont je vais vous parler, l'été d'avant, il a eu une crise horrible alors qu'il était en train d'escorter des soldats vers la Bretagne.
Okay.
Et il a essayé de tuer tout le monde, et surtout son frère, le duc d'Orléans.
Ah bah ouais.
Qui était aussi son père, j'imagine, parce que franchement...
Non. Son frère Louis Ier, duc d'Orléans.
Ouais.
Il n'a pas réussi à le tuer, mais il a tué 4 hommes avant d'être maîtrisé.
Oh là là.
Donc clairement, il y a des tensions dans la villa.
Ouais. Bien joué.
Bon bref. Et du coup, là, finalement, il est maîtrisé, il s'excuse, Louis lui dit « t'inquiète ».
Ça, c'est des citations directes de...
Ouais. Oh là là,
T'inquiète, mon frère.
T'inquiète, paupiette. Et donc là, on est le 28 janvier 1393. Ouais, okay. Charles a 25 ans. Okay, donc il est marié proche de la mort.
Enfin,
il est marié à Isabeau de Bavière.
Putain, Isabeau.
C'est un vrai nom. Ouais. C'est un vrai nom, les amis.
Il faut respecter. Voilà. Et donc, Isabeau, elle a organisé un bal masqué pour une de ses amies allemandes qui se remarie.
Ok, qui se remarie ? Ouais. Ah, mais parce que son mari avait dû mourir.
Ah, j'ai pas cherché les détails, j'avoue. Mais c'était pas bien vu.
Ok, d'accord. Ouais.
Donc, ils font une méga teuf à l'hôtel Saint-Paul. Okay. Qui est dans le Marais.
Okay.
Et ensuite, ils font une after à l'hôtel de la Reine Blanche.
Une after. Putain, je les imagine tous avec leur godio qui font des avec des grelots au bout des chaussures.
Et t'as le roi, il est accompagné de 5 de ses potes. Okay. Alors, je vais vous les nommer. Okay. Hugonin de Guizet.
Okay.
Jean III, comte de Joigny.
Ouais.
Yvain de Foix. Ogier de Nantouillet et Ayamara de Poitiers.
Pardon ?
Aya Nakamura.
Aya Nakamura de Poitiers.
Attends. Hugonin.
Hugonin.
En un seul mot.
Hugonin. Okay. Oui.
D'accord.
Et c'est N-I-N, hein, c'est pas N-A-I-N. Hein. Hugonin. Je te vois venir.
Non, mais oui, bah, je me demandais. Hugo, nain de Poitiers. Non, pas
de Poitiers. Non, de Guizet.
De Guizet.
Bon. Et justement, lui, Hugonin. Il a une super bonne idée. Il propose à ses potes de se déguiser en sauvage et de faire un charivari. Alors, au Moyen-Âge, les sauvages, ce sont des créatures mythologiques associées à la démonologie.
Okay.
Et faire un charivari, c'est quand les personnes déguisées en sauvage vont faire un spectacle au milieu de la foule. Et ça va être à base de cris d'animaux, d'obscénités, de bruits dissonants. Enfin, c'est la méga teuf. C'est très bizarre. Alors,
franchement, le Moyen-Âge, c'était une période de ouf. Hein,
non, mais ils sont parce incroyables. Que
c'est... Alors, c'est moi je décris ça comme une sorte de soirée underground d'école d'art qui expérimente des trucs avec des scies à métaux. C'est un peu le délire. Et fun fact, j'ai vraiment vécu ce genre de soirée quand j'étais au Beaux-Arts de Pau.
Ah putain.
Ouais. Non, mais donc, les mecs au Moyen-Âge, c'était des ouf.
Bah, ils savaient plaisanter.
Ah, ils savaient s'ambiancer.
Ah
hein.
Ouais, mais franchement, tu les vois genre, donc, en train de niquer avec des chèvres.
Hugonin, il leur propose de se déguiser donc, en sauvage. Et donc, leur costume est constitué de lin collé sur toile avec de la résine et recouvert de plumes et de poils d'étoupe. Donc le truc est ultra inflammable.
Oh ah bah ouais.
Wink, wink. Et vous voyez où va mener cette histoire.
Non. Oui, les ardents, donc c'est bien.
Ils ont aussi des masques avec le même matériau. Et ils sont tous liés les uns aux autres avec des liens ou des chaînes. Oh, putain, sauf le roi, idées. Évidemment, parce qu'on peut pas plaisanter avec le roi. Hein.
Oh, l'idée de merde.
Oh non.
Oh, et donc ils se lancent dans un énorme charivari pour animer la soirée.
Ok. J'imagine qu'il y a des mecs avec des torches.
Alors, on donne l'ordre d'éteindre les torches parce que leurs costumes sont très inflammables.
Ah, quand même.
Mais Louis, ce cher Louis que Charles a failli tuer la dernière fois, lui, il était allé boire à la taverne avec le duc de Berry.
Donc, il est ivre mort.
Il est ivre mort et il arrive à l'after. À l'after de Isabeau, et il faut savoir également, parce que tout est entremêlé, que Isabeau est sa maîtresse.
Quoi? Est-ce que du coup c'est pour que le roi il a essayé de le buter, genre vas-y tu
niques ma femme? Il était vraiment fou, c'était même pas par rapport à ça, c'est il pensait que il y avait un traître. De ce que j'ai lu, il savait même pas que c'était son frère au moment de son accès de colère.
Il était
dans une démence en fait.
Ok, d'accord.
Ouais.
Ok, donc Isabeau se tape Louis.
Allez là.
Se tape Louis. Okay. Et Louis, il arrive beurré comme un coin. Je sais pas si ça se dit. Et
est-ce qu'il s'en était mis
plein la cornemuse.
Il s'en est mis plein la cornemuse, le salaud. Et il arrive avec 4 chevaliers qui sont munis de torches.
Ah non.
Oh non.
Et donc, il arrive complètement bourré. Donc, la fête bat son plein. Les lumières s'éteignent. Et les six danseurs, donc le roi et ses cinq potes, se mettent à faire leur show avec hurlements de loup, obscénité gueulée à la foule. Il y a citation d'un historien qui s'appelle Jan Winstra qui dit une frénésie diabolique. Ouais, voilà, donc je l'ai noté.
Je croyais que tu allais me sortir une citation de ce qui gueulait à la foule. T'es...
Non, il n'y avait pas d'infos, mais je pense que c'était...
Elle est truie.
Ça devait être, ouais, ça devait être un petit peu... j'ai pas d'adjectif, mais tu vois quoi.
Et courage de rempart.
Bon, et donc le duc d'Orléans, il prend un flambeau et il s'approche parce qu'il veut voir qui est derrière les masques.
Oh non, mais quel connard!
Et il s'approche d'un peu trop près, ce con.
Oh non.
Et il leur fout le feu. Et ça part très très vite.
Oh non.
Et vu qu'ils sont reliés par des liens, ben, ils n'arrivent pas à se dépêtrer. Donc le roi, lui, il a pris feu, mais il arrive à se... il est pas attaché aux autres, donc il s'éloigne. Et il est sauvé par la duchesse de Berry, qui n'a que 14 ans à l'époque, et qui se jette sur lui et qui étouffe les flammes avec sa robe et ses jupons.
Ah ben, encore une fois, merci les meufs, quoi.
Merci les meufs. Alors, il y a un homme qui va survivre, c'est Osier de Nantouillet, qui réussit à se libérer, qui se jette dans une cuve qui était là pour la plonge. C'est vrai, en fait, c'était un cuvier qui était là pour nettoyer les verres. Bon. Et les autres se transforment en torches humaines et meurent, brûlés. Mais c'est horrible, riez pas.
Hugonin,
ciao, bye bye.
Bah, Hugonin, alors apparemment Hugonin, il est mort deux jours après.
Oh non.
Et il a passé deux jours à maudire tout le monde. Quel connard avec son flambeau. Apparemment, il était remonté vénère.
Ah, il était remonté comme une pendule. Il était.
Oh
non,
là
mais
là
oui,
là.
Parce qu'en plus, tu continues, même si le feu est arrêté à l'extérieur. En fait,
mais oui, bah, t'es blessé à je sais pas combien de degrés, tes organes sont touchés. Alors. Il y a le moine de Saint-Denis qui s'appelle Michel Pintoin.
Ok.
Il va décrire l'événement en disant... Alors attention, c'est gore.
Ok.
Il dit « Quatre hommes sont brûlés vifs alors que leurs organes génitaux tombent au sol, générant un fort épanchement de sang. »
Oh,
c'est trop dark.
Dark. Oh. Bah, j'ai lu ça, je pouvais pas laisser passer.
Oh, oui, non, mais t'avais raison, putain. Ouais. Bah, j'imagine l'image, c'est son âge en train de
courir
pour faire la torche humaine et ils ont les couilles,
les bourses qui
tombent. Les grelots qui tombent. Alors.
Putain, mais le duc d'Orléans, il a dû rien comprendre. Hein,
alors.
Disait, ah, bah, super,
alors, justement,
clair.
On va parler de. Donc, ça, c'est le bal des ardents, rideau.
Okay.
Les jours qui suivent. Le duc d'Orléans, il est présenté comme le principal responsable, ce qui est un peu normal.
Ce qui est vrai,
mec, t'abuses.
Alors lui, il va donner des fonds pour construire une chapelle à l'église de l'ordre des Célestins et une messe pour le repos des quatre âmes perdues est alors dite quotidiennement.
Putain, le mec se sent super coupable.
Ouais. Sa réputation, elle est fortement entachée.
Ouais.
Oui, bah oui.
D'autant plus que précédemment, il a fait l'accusation de sorcellerie après avoir recouru au service d'un moine apostolique pour enchanter une bague, une dague et une épée. Alors, j'ai cherché ça, j'ai rien trouvé sur ça.
Putain.
Mais apparemment, il faisait de la sorcellerie.
Mais...
Il était accusé de ça. L'hôtel de la Reine Blanche a été démoli sur ordre du roi en 1404. Et la rue a été ouverte à cette occasion et c'est pour ça que la rue s'appelle la rue de la Reine Blanche.
Ok.
L'épisode du bal des ardents renforce l'impression de la population que la cour s'enfonce dans des extravagances et des mœurs corrompues.
Oh non, pas
autour
trop,
d'un roi, autour d'un roi à la santé délicate et incapable de régner.
Ouais, j'imagine.
Et d'ailleurs, le roi, il va encore plus sombrer dans la folie après ça.
Mais en même temps, je comprends, tu vois, genre le mec, il se fait cramer la gueule quand même.
Et puis, ouais, ces quatre poteaux en torche humaine, c'est pas bien, je pense.
Ouais. Si déjà il était un petit peu toc-toc, franchement.
Par contre, il va publier une ordonnance donnant la régence à son frère.
Ouais, quoi ?
Donc, ça, j'ai pas compris, ça n'a aucun sens. Et en fait, cette régence, elle est très bizarre. En fait, il dit quand j'ai toute ma tête, c'est moi le roi.
Ouais.
Mais quand je deviens un petit peu cinglé, c'est mon frère qui prend les rênes.
Mon frère qui est bourré et qui prend tout le monde.
Voilà.
Chelou.
Et bon, en 1407,
ouais.
Ça n'a rien à voir, mais c'est pour clôturer le débat. Jean sans peur, le duc de Bourgogne, cousin du duc d'Orléans, va le faire assassiner pour vice, corruption, sorcellerie et une longue liste d'offenses publiques et privées.
Ah.
Entre guillemets. Il va l'assassiner rue Vieille du Temple, dans le Marais, je ne sais pas si vous voyez.
Tout à fait. Okay.
Mais en fait, c'est un prétexte. Hein. Je pense que la sorcellerie, tout ça, c'était des prétextes pour juste récupérer le pouvoir. Hein.
Ouais.
Et donc, cet assassinat va marquer le début d'une guerre civile entre les Bourguignons et les Armagnacs. Et donc, on peut dire que cette guerre civile sera aussi causée par ce fameux bal des Ardents.
Mais voilà. Ouais, grave.
Wow. Et alors, j'ai trouvé toutes mes infos sur Wikipédia et sur un site qui s'appelle paris13e.fr. Voilà. Et j'ai vu aussi passer un article et j'ai oublié de noter la source. Mais le titre, c'était « Les danseurs ont mis le feu ».
Oh, c'est doute, ça peut-être très que drôle. Ça vient peut-être là, mettre le feu au dance floor.
Peut-être, en fait, je sais pas.
Okay. Voilà, il a mis le feu à la piste. Et en fait, c'est quatre mecs qui ont perdu leur bourse.
Oh non.
Je suis très contente parce que c'est exactement le genre d'histoire que j'avais en tête, que je me disais que ce serait trop cool à raconter. Enfin, une espèce de truc un peu...
Ouais, c'est un peu éloigné, donc ça va.
Ouais,
et puis ça parle de la cour, ça parle de beuverie et ça parle d'accident, quoi.
Mais c'est un fun fact trop cool, tu vois.
Mais grave.
Fun fact, c'est pas fun, c'est un peu fun. On a bien ri.
Non, mais en tout cas, c'est une anecdote de notre histoire qui est intéressante. Et j'habite à 10 minutes à pied de là où ça s'est passé. Et je travaille à 5 minutes à pied de là où s'est fait assassiner le duc d'Orléans.
Mais du coup...
au cœur de l'info.
Au cœur de l'info, ouais. Mais du coup, le palais, il a été démoli parce que il y avait ça qui s'était passé là-dedans.
Alors, il n'y a pas d'infos, mais c'est le roi qui a demandé à ce que le palais soit l'hôtel soit démoli. Mais par contre, il a demandé en 1404, donc 9 ans après.
Ah ouais.
Donc, c'est pas forcément à cause de ça, je pense, je sais pas.
Mais il s'en est peut-être souvenu à un moment donné, il était là. Putain! Tu te souviens le jour où
tout a basculé,
où t'as foutu le feu à tout
le jour où j'ai pris feu.
Tu sais, à un banquet comme ça, alors moi j'en ai une bonne, les gars. Un jour j'ai pris feu, tous mes potes ils ont perdu leur couille, c'était incroyable.
Non mais ils sont morts surtout.
Bah, oui, mais enfin bon, on se met dans la tête.
Et alors moi j'ai lu que parmi ces potes là qui sont morts, il y avait le fils de Gaston Phébus. Alors je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si vous voyez qui c'est, Gaston Phébus.
Bah ouais.
Ouais.
Ah bah voilà.
Oui,
donc j'avais trouvé que c'était, c'était marrant.
Il était par chez nous.
Bah oui, moi j'étais au lycée Gaston Phébus à Orthez.
Ouais.
Voilà.
Ok.
Info avec
vous. C'est histoire de nous relier tous à nos anecdotes.
La boucle est bouclée encore une fois. Putain, bah bravo, franchement.
Ça vous a plu?
Ouais, grave. Bah la prochaine fois qu'on vient te voir, on va faire un petit pèlerinage.
Yes,
ouais,
on va voir. Mais il y a des vestiges apparemment de l'hôtel de la Reine Blanche.
Ah ouais.
À chaque fois, j'ai envie de dire l'hôtel de la Dame Blanche. Une autre histoire que je vous raconterai une autre fois.
Yeah. super.
Trop bien.
Merci beaucoup. C'était une bonne façon de commencer cette nouvelle saison de La Mort Votre Rose, je trouve.
Ouais.
Avec des histoires de meufs cool et des histoires de rois fous.
Ouais.
C'était pas mal.
La duchesse de Berry, elle est un peu classe aussi, quoi.
Grave, 14 ans.
Elle réfléchit pas, elle pose son cul sur le roi.
Ah, mais grave.
Mais c'est fort, hein.
Mais alors, attends, du coup, est-ce que c'était la femme du duc de Berry qui n'avait pas 14 ans, j'imagine, hein.
Non. Qui était allé boire des coups à la taverne avec Louis. Absolument.
Ouais, ils étaient vieux, j'imagine.
Ah bah j'imagine que oui.
Non mais parce qu'elle aurait... Bon alors, c'est toujours terrible hein, qu'elle ait 14 ans et genre lui il a 25 ans, c'est horrible. Mais c'est mieux que 14 ans et 65, tu vois. Ouais.
Je sais pas quel âge il avait, mais je sais pas.
Moi, quand j'entends Duc de Berry... Duc... Bah il va y en avoir plusieurs, je sais pas.
Mais Duc de Berry, 1400... en quelle année ça se passe? 1393.
1393. Attends, je vais voir. Duc de Berry. Bon, il y en a eu plusieurs, j'imagine. Duc de Berry, 14e siècle. Jean de Berry, il est né en 1340. Donc il a 33 ans.
Ok, ouais, ouais bon.
C'est horrible.
Ouais, mais à l'époque, il a 20 ans. Il allait en avoir
50 ans. À mon avis, oui, il doit être bedonnant et rougeau et.
Non, puis
et il a du gras derrière les oreilles.
Ouais.
Oh, enfin, de, du, Genre, il n'est pas lavé, pas...
Ouais. De la crasse.
De la crasse, ouais. De la crasse qui sent le thon, ou je sais pas. un truc qui est plus fort, quoi. La sardine.
Le duc de Berry, il pue la sardine.
Ah bah, attends.
Et ça, c'est un...
Historiel, attends.
C'est un fait historique vérifié. Hein.
Absolument.
Voilà, c'est le moine Jean machin qui l'a écrit.
C'est comment il s'appelle? Pintoin.
Jean Pintoin. Qui l'a dit. Le duc de Berry qui humait la sardine de derrière ses... C'est j'écoutis.
C'est gourdes.
Ah putain. Bon, bah très bien.
Voilà.
On va conclure sur ces belles images. qu'est-ce que tu recommandes aux gens, Agathe?
Alors moi, la dernière fois, j'ai pas pensé à le dire.
Ouais.
Mais si vous voulez ressentir des trucs. Ouais. Dans ces temps compliqués, je vous conseille Fleabag.
Bah oui.
Bah ouais.
Oui.
Et moi, je conseille surtout la saison 2 que je trouve parfaite.
Ouais,
je l'ai pas vue moi encore.
Et que je trouve qu'elle est beaucoup mieux que la saison 1. Et déjà, la saison 1 est excellente.
Ouais.
Et moi, en un an, j'ai regardé 3 fois la saison 2.
Ouais.
Parce que ça me fait des trucs.
Elle est exceptionnelle, je suis tout à fait d'accord.
C'est génial et j'aime Phoebe Waller-Bridge vraiment fort et voilà.
Je comprends tout à fait. Et c'est vrai, et voilà. Ça se regarde super rapidement.
Enfin, les épisodes font 30 minutes et il y a 6 épisodes par saison. Donc, ouais.
Et c'est incroyable.
En une soirée, c'est plié.
Franchement, la fin, en fait, j'ai trouvé que c'était parfait. C'est pas souvent que tu te dis.
La fin de la saison 1?
La fin de la série tout court.
Et en fait, mais tu as vu la saison 2, toi?
Oui. Marion, elle l'a pas vue, mais moi, je l'ai vue.
Ah, j'ai cru que c'était toi, ok.
Je vais pas spoiler, hein, mais c'est juste... c'est pas souvent que quand on regarde une série et qu'elle se termine, tu te dis genre, ah, c'est parfait, genre, c'est vraiment... Ouais. C'est un petit truc emballé, y a rien qui te dépasse, genre, c'est vraiment...
Alors moi ça m'a brisé le cœur parce que j'étais pas prête à lui dire au revoir.
Oui, c'était triste parce
mais effectivement c'est et puis c'est classe comment ça se termine. Enfin,
c'est super
elle termine
classe,
le truc et voilà.
C'est d'une intelligence et d'une finesse, franchement c'est incroyable.
Ouais,
et
c'est
tu pleures, tu ris, tu passes par toutes les émotions.
Et puis c'est super cool d'avoir un personnage féminin qui est égalité de vice et de vertu, c'est-à-dire que tu la regardes pas genre « Ah, c'est un modèle, c'est pour que les petites filles, elles se... » Genre, elle a aussi des défauts et des putains de défauts, et c'est super agréable de pas nous bourrer le mou à « Voilà, vous avez un personnage féminin pour vous faire plaisir. » Non, c'est un personnage féminin qui est super complexe, avec de la profondeur, avec des trucs, et ça m'a fait... moi, ça m'a fait un bien fou, j'ai adoré.
C'est trop bien, voilà. Donc très bonne recommandation. Écoute, excellent. Marion, est-ce que tu as des choses à recommander?
Alors, des choses à recommander. Alors oui, du coup, on en parlait avec Agathe donc, au début du podcast. Donc toujours pour... Enfin, si tu veux regarder des séries un peu scandinaves trop cool. Bon, scandinaves, je compte aussi le Danemark. C'est pas vraiment les scandinaves, mais voilà.
Oui, on se comprend.
Du nord de l'Europe.
Des séries de blonds.
Voilà, des séries de grands blonds. Voilà, ou de petits bruns aussi, parce que les Danois, j'ai remarqué, les acteurs danois sont petits bruns.
Ah ouais?
Ah ouais?
Et oui, contre toute attente.
Ah ouais?
Et oui, Jamy. Bon, bref.
Donc, et oui, Jamy.
Donc, en termes de série danoise, moi, j'avais adoré The Bridge. Voilà.
Ok.
Qui est une série policière aussi, voilà, et qui se passe, en fait, c'est un meurtre. On dépose un corps, en fait, assassiné sur, donc, le pont qui rejoint le Danemark à la Norvège.
Mmh.
Voilà.
Okay.
C'est hyper classe. Voilà, c'est très très bien. Ils sont très forts en série policière. Après, donc, je te parlais de Occupied, donc il y a une série pareil en fait. C'est comment. Alors j'ai déjà oublié, je confonds toujours les trois. C'est la Suède qui est autonome en pétrole. C'est la Suède. Ouais, d'accord.
Ah, c'est possible, je sais pas.
Ou la Norvège ?
La Norvège.
Non, c'est la Norvège, c'est la Norvège.
Le truc, c'est que la série est norvégienne, donc...
Mais je crois que la... Oui, oh, putain.
Je crois que c'est la Norvège.
C'est la Norvège, hein. Bon, bref. Et en gros, c'est comment, donc, ce surfond de magouille politicienne au niveau de l'Union européenne, en gros, la Russie, qui n'admet pas que la Norvège, en fait,
soit complètement autonome en termes de pétrole et donc décide, grâce à l'énergie du pétrole, de, en gros, d'être un modèle de vertu en termes d'écologie, etc., etc., parce que du coup, ils font plein de lois et de machins, décide d'envahir la Norvège.
Ouais.
Parce qu'en gros, ils sont là, bah ouais, mais vous êtes gentils, mais normalement, vous, en fait, vous nous, c'est eux qui comment dire, qui les approvisionnent.
Les fournissent.
Ouais, voilà, en termes de pétrole. Et là, ils disent, bah ouais. Non, en fait, on arrête le commerce du pétrole parce que c'est de la merde. Et ça ne plaît pas aux Russes. Et donc, ils vont progressivement envahir la Norvège sous le regard passif de l'Union européenne. Et donc,
Ok.
Voilà. Et c'est okay. hyper chouette. Alors, t'as un peu le cliché des méchants russes en Europe.
Ouais.
Ça, c'est un peu chiant. Mais en vrai, ça dénonce aussi très bien la passivité de l'Union européenne et les limites à partir du moment où il y a des gros sous en jeu. Parce que...
Ouais.
Bref, voilà. Mais sinon, okay. une série allemande. Moi, je suis en train de dévorer Deutschland 83. C'est magnifique.
C'est quoi ça ?
Deutschland 83, donc ça se passe en Allemagne de l'Est, en 1983.
Ah oui, c'est pas avec un mec qui fait son... Non, attends, vas-y.
Si, pardon. Si, c'est ça. Et en gros, c'est un jeune donc, qui est en train de faire son service militaire, qui est recruté par sa tante, qui est en fait un membre de la Stasi, pour aller à l'Ouest faire une mission. Et il n'a pas trop le choix, en fait. On lui demande plus ou moins son avis, mais en gros, sa mère est malade. Et si elle veut être prise en charge par les bons hôpitaux et avoir son truc, eh ben, ce serait bien qu'il le fasse.
Okay.
Et donc, voilà ce jeune de 19 ans, bazardé à l'Ouest, qui va découvrir les années 80 empruntées de musique et de films anglo-saxons, alors que lui, il vient de l'Est et que c'est pas du tout la même ambiance, quoi.
Okay.
Et c'est trop bien.
Bah ouais, j'avais entendu dire que c'était vachement cool.
Ah, c'est trop cool. Ouais.
Ok.
Ouais, voilà.
Trop bien. Ouais. Et toi, Claire ?
Merci. j'allais dire, et moi, puisque personne ne me demande. Moi, qu'est-ce que je recommanderais ? Ben, en fait, aujourd'hui, là, j'ai regardé sur Netflix, il y a En bref, coronavirus. Tu sais, ces petites séries, là, il y a des En bref, la sexualité, En bref, machin, des trucs comme ça. Et ils en ont sorti une juste coronavirus. C'est juste un épisode, ça dure 20 minutes. Et j'ai trouvé ça super bien fait. Où en fait ils expliquent la nature du virus, comment il se développe, comment il se fixe sur les personnes, enfin voilà, ça explique plein de trucs, comment le coronavirus, enfin le Covid-19, comment il se place par rapport aux autres pandémies qu'il y a eu, les autres cas de coronavirus, genre SARS, MERS, etc. Quelle est la stratégie à adopter, enfin, quelles ont été les stratégies adoptées dans les anciennes pandémies, genre pendant la peste noire, etc. aussi, parce que, par exemple, la quarantaine, c'est à ce moment-là que ça se développe. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça, indicatives et intéressantes pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, quoi.
Ok.
Et voilà. C'est vraiment, vraiment c'est sympa. Bon, bien sûr, ça prend des trucs historiques pour montrer comment, bah, genre, s'il y a le déconfinement trop tôt, et ben voilà ce que ça va faire. Quelle est la meilleure marche à suivre qui est, spoiler alert, juste tester tout le monde. Mais, voilà.
C'est vrai ?
Ouais, c'est ouais, ça, en fait, qu'il faut faire.
Alors, pourquoi ? J'ai pas compris, moi, ça.
Mais parce qu'en fait... Pourquoi ça se fait pas ou pourquoi c'est ça qu'il faut faire et...
Pourquoi c'est ça qu'il faut faire qui va résoudre le BINS ?
Alors en fait, c'est parce que... donc là, bon, bah, par exemple, nous en France, là, le 11 mai, on est censé faire le déconfinement.
Oui.
Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait tester toutes les personnes pour savoir quelles personnes peuvent être déconfinées et partir au travail et quelles personnes doivent rester chez elles. Et donc en fait, continuer le confinement pour les personnes qui sont porteuses ou qui sont... qui sont malades, sans pour autant complètement arrêter, enfin, en reprenant progressivement, en fait, voilà. Et donc, c'est la meilleure façon, là, de contenir le truc. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé en Islande, c'est ce qui s'est passé en Corée du Sud, et ce qui se passe en Allemagne aussi, je crois.
Ouais. Bah, ils n'ont pas testé tout le monde, mais ils ont beaucoup plus de tests que nous.
Alors apparemment, la France, c'est le pays qui a le moins testé ses habitants.
Ah oui, mais ils ont testé que les personnes qui sont à l'hôpital, qui sont déjà malades, en fait. Donc,
ouais.
Non, c'est une catastrophe. Et ça, c'est une des raisons qui explique, outre le fait que les Allemands ont un bien meilleur système de santé que nous, que effectivement ils n'ont... Alors, il faudrait... Les chiffres ne doivent plus être bons depuis, parce qu'on en a parlé il y a quelques jours, mais de, je crois, 5000 morts, alors que leur population est plus vieillissante que la nôtre, et qu'ils ne sont pas confinés.
Et je crois qu'au même nombre de cas avec la Grande-Bretagne, il y a un truc où ils ont eu le même nombre de cas à peu près au même moment, Allemagne-Grande-Bretagne, et sauf que le nombre de morts en Allemagne est très bas par rapport à celui de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est vraiment genre presque deux fois plus, je crois, ou quelque chose comme ça. Et c'est dû à une meilleure... Enfin, ils ont mieux géré. Et donc, dans cet épisode, c'est intéressant aussi parce qu'ils parlent du fameux docteur en Chine qui a lancé l'alerte et qu'en gros, si on l'avait écouté, ce gars, en fait, le confinement avait été commencé 3 semaines avant, on aurait évité 95% de juste la contamination des morts, forcément aussi, mais de tout ça, quoi. Donc, vraiment très intéressant à regarder. Ça dure 20 minutes, comme tous les en bref. C'est un format super, super. Ouais. Moi, je trouve ça trop bien comment c'est fait.
C'est assez cool.
Ouais, et voilà, il y a des beaux graphiques. Et moi, j'adore les beaux graphiques.
En parlant de la Chine. J'annule absolument toutes mes recommandations. Si vous devez choisir un truc à regarder en ce moment.
Mais ou sinon, tu la gardes pour demain.
Oui, mais demain, j'aurais oublié. C'est sûr. Demain, j'aurais oublié. Donc, et je ne ferai pas de recommandations demain s'il faut, parce que j'en ai fait 150 000.
Ouais.
C'est Tous surveillés, 7 milliards de suspects.
Ouais.
En ce moment sur Arte. Moi, j'ai fait une crise d'angoisse en regardant ce truc.
Donc peut-être à éviter s'il y a des gens fragiles pendant le confinement.
Voilà, on évite. Mais par contre, c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, déjà, je suis parano par rapport à la surveillance numérique, par rapport à toutes les dérives qu'on peut en faire. Là, si tu veux, ça confirme et ça augmente mon angoisse et ça alimente ma paranoïa.
Il est très bien, il est sur Arte. Il est
très, très bien documenté, c'est très bien fait.
Il est sur Arte, le site d'Arte. Et c'est vraiment...
c'est ouf, par contre. C'est surtout très important d'avoir conscience, en fait, de la... Comment dire, de ce qui est en train de nous arriver sur la gueule, parce qu'en fait, le documentaire a été fait avant le confinement, et depuis, il y a des choses qui ont changé, et je pense que là, on s'achemine vers un scénario...
Moi, je sais pas si ça a à voir, mais je voudrais ajouter de l'huile à ton moulin, rien à voir.
De l'huile au moulin.
Le moulin, il va pas marcher de ouf.
Non, de l'eau à ton moulin. J'ai appris que House Party, cette fameuse appli qu'on adore, c'est très très chaud ce qu'ils font avec.
Oula.
Il y a quelqu'un qui crie dans la rue.
Oui.
Pardon. C'est très chaud ce qu'ils font avec nos conversations et tout ça. Ils ont accès à tout. Ils peuvent réécouter nos conversations, utiliser nos données, tout ça. C'est.
Ah merde.
Renseignez-vous.
Mais en même temps, c'est la même merde aussi avec Zoom. Ouais. Enfin, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il y a toutes les applications. Quelle que soit l'application que tu vas utiliser, il y a.
C'est la merde. Ok.
Ouais. J'ai l'impression, en tout cas, enfin, j'en connais pas une qui soit safe.
Y en a une qui a été conseillée par le CNRS, il faudrait que je retrouve le nom. Et ils conseillent, en fait, pour les visioconférences, parce que nous, on travaille beaucoup avec ça, du coup, on est obligé de travailler avec Zoom pour machin. Et ils conseillent une alternative. Je suis pas sûre que ce soit aussi efficace que Zoom, mais en termes de protection des données, c'est quand même beaucoup moins craignos que Zoom ou House Party. Effectivement, quand tu te...
Apparemment, tu vois, Messenger, WhatsApp ou FaceTime utilisent des plateformes chiffrées, ce qui est déjà mieux, alors que House Party, non.
Ouais. Mais FaceTime, tu peux que si t'es utilisateur d'Apple.
Oui, non, mais bien sûr, mais c'est pour dire qu'il y a des... Il y a des plateformes qui utilisent des...
Ouais, le problème, c'est que c'est...
Il y a des applis qui utilisent des trucs... chiffré quoi.
C'est des trucs moins. Enfin, tu peux être. Après, tu peux pas être autant. Genre, aussi, Messenger, tu peux être que 8 maximum.
Ouais.
Bah, House Party aussi. Hein. House Party, tu peux être que 8. Non, que 8 maximum.
Ah bon? Ah
Ouais,
ouais,
ouais.
non, mais du coup.
Et au final, même si on est, enfin, même si on ne peut pas être autant, je préfère quand
Bah
même
ouais,
une appli qui
c'est
protège mes
abusé.
données,
Ah oui,
quoi.
bien
Enfin,
sûr, ouais, c'est sûr.
Messenger, on va pas dire que
Non.
Messenger protège nos données, hein, vu que ça
Ouais,
appartient à
vraiment pas.
Facebook, mais au moins elle utilise une plateforme chiffrée.
Ouais.
Et House Party non, et House Party apparemment peut même réécouter nos conversations,
Oh,
donc
quel enfer. Je sais pas ce
c'est
qu'ils foutent trop avec
incroyable.
nos conversations sportives, par contre.
Non,
Parce que
mais même pour le
personnellement,
principe,
je ne
non,
partage
bah.
pas des secrets d'État, moi, quand je vais. Je peux te dire que dans mes conversations, ça vole pas haut.
Non, mais après, c'est le revendre à les sociétés privées pour s'en servir, soit pour faire de la pub personnalisée, soit que ça rentre dans des banques de
Voilà, c'est
données
ça.
à certains gouvernements enfin, tu vois, ou des services de renseignement, et en fait, t'en sais rien, en fait. C'est comme
Oui.
Zoom, c'est-à-dire qu'on en parlait parce que du coup, moi,
Non, mais
je.
en plus, Zoom, il y a des trucs pro qui se passent,
Mais
donc
c'est
c'est chaud,
ça, en
quoi.
fait, tu vois. Genre, évidemment, ça ne. Toi, tu te dis, moi, je suis un bon petit citoyen, je suis pas dans l'illégalité, je fais ce que je veux avec mes cheveux et je dis rien qui pourrait être reconnu contre
Oui,
moi.
bien sûr.
Jusqu'au
Mais
jour
c'est le
où, en fait.
principe, oui.
Enfin, c'est
Ouais.
faux. Parce que jusqu'au. C'est-à-dire, parce que, enfin, je veux dire, on a quand même des gens autour de nous. Bon, tu vois, qui ont eu des soucis avec la police, juste basés sur leurs opinions politiques.
Ouais.
Et on est en
Ah bon?
2020 en France.
Nous,
Donc,
on connaît des gens.
ouais, bah, j'en parlerai pas là, mais
Ouais.
voilà.
Ok.
Bref, donc, si tu veux, jusqu'au jour où. Donc, tu vois, ce genre de truc, genre, c'est
Non,
comme
mais c'est
Zoom qui
sûr.
revend les, en gros, ouais, voilà, les profils, en gros, ou les réunions, en gros, sur le darknet, mais il n'y a même pas besoin de ça. Si tu veux, le hacker, il s'en sert,
Non, il n'y a
et
même
tu
pas
sais, tu
besoin.
vois ce que je veux dire? Et il s'en sert, et tu sais pas s'il sera dit. Les trucs qui sont dits, même entre nous, même nous, enfin, moi, tous les vendredis, j'ai un séminaire avec, entre doctorants. Et on partage nos points de vue sur le confinement et on essaie de mettre une perspective historique, enfin bon, bref, de débattre un peu de ça, sur plein d'aspects, sur la maladie, sur etc. etc. Mais forcément, tu es obligé de mettre en perspective et donc de critiquer ce qui se passe par rapport à d'autres situations, etc. Et donc, même ça, des propos qui sont censés être entourés un petit peu d'esprit scientifique et relatés, ben, tu mets en perspective avec des textes genre de Bourdieu, de machin, de truc, même ça, en fait. Ben, du coup, tu sais pas ce qui peut advenir de ça. Alors, on n'est pas en train de révolutionner le monde et de refaire l'historiographie. C'est pas ça ce que je dis. Mais on est déjà, enfin moi en plus, et en plus entre nous, entre doctorants, on est quand même bon, plutôt d'accord sur l'horreur que c'est d'être en permanence surveillé, l'utilisation des drones et le danger que ça a, truc. Donc en fait, tu vois, t'as pas besoin d'être dans l'illégalité et d'être déjà en porte-à-faux pour que ça te revienne dans
Ah
le
non, mais
coin de
c'est
la gueule,
sûr.
en fait.
Ouais, non, c'est sûr. Même moi qui considère que mes données sont pas très importantes, et encore, je sais pas, je trouve que par principe, c'est chaud.
C'est chaud, quoi.
Et même, tu vois, si c'est pour voir que bah, pendant tout le confinement, j'ai picolé sur House Party ou je sais pas quoi pour ensuite revendre à des assurances ou je
Non,
sais
mais
pas.
c'est ça.
Enfin,
C'est ça. C'est-à-dire que quand même, la collecte de
pas ce qu'ils ont
données
prévu d'en faire.
personnelles, ils
C'est
s'en servent
ça.
déjà dans certains modèles anglo-saxons pour autoriser des prêts banquiers ou non, parce qu'il y a des profils à risque. Ah, mais vous comprenez, monsieur, nous, on a vos données médicales, on a vu que vous n'êtes quand même pas trop en forme et que vous avez des problèmes de cœur, donc on va peut-être pas vous accorder ce prêt, parce que si vous clamez et que vous n'avez pas fini de payer, qu'est-ce qu'on fait, nous, tu vois?
Ouais.
Enfin,
Ouais.
bon,
Je suis
bref.
désolée de vous casser dans votre truc,
Pardon,
mais
pardon, oui, faut qu'on
on va
s'arrête,
peut-être
oui.
se... Voilà,
Faut
bon.
qu'on l'antenne.
On
Non,
rend
mais oui,
l'antenne, donc ça
mais
fait quand même 1h35, donc...
effectivement très intéressant. Ah ouais?
À vous, les
Oui,
studios.
quand même. Donc,
Ouais.
très rapidement, du coup,
Ah oui.
qu'est-ce qui a illuminé ta journée, Agathe?
Je sais pas. Rien. Attends, je réfléchis. J'ai nettoyé ma cuisine, ça m'a fait un bien fou.
Trop bien.
Ouais.
Voilà. Et votre appel.
Ah, trop bien.
Voilà.
Toi, Marion?
Oh ben moi, clairement, le bal des ardents.
Ah
ouais.
C'était excellent.
C'était excellent. C'était horrible, par contre. Je rip.
C'était horrible, ouais.
Mais franchement, c'était énorme. Ah, ils savaient
Ah, trop
s'ambiancer, hein,
cool.
au XIIIe siècle, hein, je te le dis, moi.
Ouais. Ah ouais. Très bonne histoire. Et moi, c'est j'ai été chercher ma Madbox.
Ah ouais.
Je suis abonnée à la Madbox de Mademoiselle. Et c'est trop cool parce que c'est un truc DIY dedans. Donc,
Ça veut dire
y
quoi?
a, c'est do it yourself.
Do it yourself.
Ouais.
T'essayes de me quizer sur DIY ?
Non, mais...
Ah, pardon.
C'est pas évident. Toi,
Et donc, du coup, c'est cool parce que dedans, il y a un truc pour faire des cupcakes, il y a des feuilles à origami. Donc ça, ça va bien m'occuper.
T'occuper, ouais.
Il y a du vernis vegan, éco-responsable, fabriqué en France, je sais pas quoi.
Mais le vernis, c'est pas forcément vegan ?
Non.
Ça veut dire quoi ? Ils mettent des...
Mais je pense que ça a à voir avec... Non, mais il doit y avoir soit des ingrédients ou juste la façon dont c'est testé ou des trucs comme ça.
Ah, ouais. Okay.
Et donc là, non, c'est vegan. J'ai pas vu, mais genre, il y a de la farine de je sais pas quoi... Okay. Enfin, les ingrédients sont cool. Voilà.
Okay. Ouais.
Merci Agathe.
Ouais.
Merci à vous.
Putain, mais ouais, on va refaire un épisode avec toi.
Pour un redébut de confinement parfait. Bah, de toute façon, quand on va être reconfiné.
Ah oui, parce que voilà.
Et ben on pourra...
Ah non, mais c'est sûr. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire la semaine de déconfinement juste avant qu'on soit reconfiné.
Ouais, ça va être incroyable ça.
Il va falloir prévoir ça, quoi.
Je cours un marathon
de
Toulouse, je pense.
De brûler la chandelle par les deux bouts, tu vois. Ouais.
Ben moi, je pense qu'on va s'en mettre plein la cornemuse.
Ah ouais.
Grave.
Ouais.
Oh putain, peut-être que pour une semaine, je descends à Toulouse.
Ah mais oui.
On s'en met plein la cornemuse.
Ben non, mais tu sais quoi, tu descends et comme après, il va y avoir le confinement, tu restes. Tu fais tout le confinement.
Tu fais quoi le béniche ?
Mais tu l'amènes.
Tu l'amènes, c'est bon. De toute façon, moi, le 22, je me fais opérer. J'aurai besoin d'une infirmière. Voilà. Donc voilà. Non mais apparemment, enfin bon... On continuera cette conversation après.
Oui, on va voir, on en reparle.
On va rendre l'antenne.
On fera faire.
Du coup, merci Agathe.
Merci à vous.
Reste bien confinée.
Ouais.
Et le premier dehors est fan de Hugonin de...
Hugonin de Gezé.
Hugonin de Gezé.
Allez, c'est parti.
Excellent. Allez, ça marche.
Bisous. Ouais.
Gros bisous Agathe.
Bisous.
Salut.
Ciao.
Poetry is no place for a heart that's a whore. And I'm young and I'm strong, but I feel old and tired, overfired. And I've been poked and stoked, it's all smoke, there's no more fire, only desire for you ever you are. Whoever you are, oh, you say my time here has been some sort of joke, that I've been messing around, some sort of incubating period. But when I really come around, I'm cracking out, and you have no idea, no idea how it feels to be on your own. Those guys with guitars I've been watching in bars, who've been stamping their feet to a different beat, to a different beat, to a different beat. I will not pretend, I will not put on a smile, I will not say I'm alright for you, when all I wanted was to be good, to do everything in true, to do everything. True, you bloody motherfucking asshole. Are you bloody motherfucking asshole? Are you bloody?